Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonjour à toutes et tous, bonsoir, on fait le match 18h30 chaque samedi, bienveillance, info, débat, échange avec vous tous. Émission, vous le savez, 100% interactive, elle vous appartient cette émission, elle est filmée sur rtl.fr ou via l'application et à retrouver aussi le plus vite possible en total replay avec vos messages sur Twitter, le compte @rtlfoot. Avec moi en studio, mademoiselle Cindy Colmenares, la voix ensoleillée dont fait le match. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Florian Gazan, l'homme orchestre, le Rémi Brica de RTL. Je sais. Je ne me renouvelle pas.
J'aime bien.
Mais oui, puis ça me plaît bien. Bonsoir.
Il manque plus que la colombe. Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Bonsoir Florian. Aucune raison également de modifier la présentation de Gilles Verdez qui lui va comme un gant. C'est le procureur dont fait le match. Bonsoir.
Bonsoir.
Enfin Baptiste Després pour le Figaro. Lisez le Figaro, il y a d'excellentes pages de sport, pas seulement, mais beaucoup de sport. Bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Au menu ce soir, a-t-on encore le droit de critiquer le Paris Saint-Germain ? Leonardo a-t-il raison de prendre la mouche ? Et le Brésilien vise des noms. Alors le courage intellectuel n'est-il pas de les citer, ces noms, de désigner précisément ceux à qui il en veut ? Lille, a-t-on encore le droit de critiquer Lille ? Décevant championnat, décevant Ligue des champion, ou faut-il n'applaudir que lorsque le club nordiste est champion de France? Le coming out de l'Australien Joshua Carvalho, pourquoi en 2021 est-ce encore un exercice si périlleux dans le monde du football? Guendouzi, le nouvel homme fort de l'Olympique de Marseille, selon précisément le Figaro, eh bien Baptiste Després répondra à cette question. On a un peu l'impression quand même que le Figaro a craqué sur ce coup-là. Pochettino, Guardiola, Koeman, Paris Saint-Germain, Manchester, Barcelone, les entraîneurs servent-ils encore à quelque chose? Et puis avant 20h, les tirs au but, le reste de l'actu en question-réponse, après le coup de sifflet de l'arbitre. Vous le savez, c'est un exercice qu'affectionne particulièrement Gilles Verdez. Les plus faibles quittent le studio.
Et il y en a beaucoup, Christian.
Et il y en a beaucoup, il y en a plus en plus.
Comme tous les week-ends.
Classement général provisoire, sans fourche, qui n'est pas là ce soir. Leader avec 7 points. Gilles Verdez, 5 points. Peut tenter donc de revenir à la hauteur de son faux.
Ce ne sera pas le cas.
Troisième, Sébastien Tarago qui a décroché également 4 points seulement. Et puis à 20h, vous retrouverez la brochette de RTL Foot. Éric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Baptiste Durieux. Avec à 21h, Raphaël Vantard pour les commentaires de l'intégralité. Mais pas seulement, hein, l'intégralité de Lyon-Lens. Match de 17h. Metz-Saint-Etienne, 74 minutes de jeu. Le score 1. Un but partout, on filera dans un instant au stade Saint-Symphorien avec un but absolument somptueux de Kasri. A tout de suite, restez avec nous, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match, Cindy Colmenares, Gilles Verdez, Florian Gazan, Baptiste Després et Dimitri Ramelot dans le direct du soir, match de 17h, FC Metz, AS Saint-Etienne. Bonsoir Dimitri.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Rappel du score.
77 minutes à Saint-Symphorien et vous l'avez dit, un but partout de match, deux équipes qui se livrent à un match la peur au ventre à son 19e et 20e et un but, Christian, un but de Kasri à la 16e minute, un lob de 68 mètres, il était dans son camp, Kasri.
Extraordinaire.
Il a levé la tête, il a vu que Oukidja, le gardien du Football Club de Metz, était avancé, il a frappé. Le lob parfait, Oukidja totalement hors tard. Et ça venait égaliser hein, parce que Boulaya avait marqué déjà un super coup franc direct à 30 mètres quelques minutes avant, à la 9e exactement. Il reste 13 minutes à jouer, un but partout entre les deux équipes.
Antenne ouverte évidemment, Dimitri Ramelot, un résultat qui pour l'instant ne fait ni l'affaire de Metz, 19e, ni l'affaire de Saint-Etienne. 20e. Je voudrais vraiment, les amis, qu'on s'arrête quand même sur le but de Kasri. Donc, on va citer Opta, hein, qui nous livre parfois des statistiques très intéressantes. 68 mètres. Alors, moi, de mémoire, le suiveur du foot, je n'ai jamais vu un but marqué d'aussi loin. J'avais le souvenir, mais j'ai l'impression que mon imaginaire me fait défaut, d'avoir vu un but de Pelé, mais alors un but reconstitué par des images de synthèse, car la vidéo, la télévision n'était pas sur ce match-là. Avec Gilles, on a fait un petit travail.
On n'a pas l'authentification, absolument.
Voilà, on n'a pas retrouvé, mais ce but-là est absolument extraordinaire. Il n'en vaut pas un autre.
Mais c'est fabuleux, d'accord, parce qu'en plus, il y a la maîtrise du geste du début jusqu'à la fin. On le voit remonter, même les commentateurs le disent. À ce moment-là, c'est une action anodine, finalement, parce que c'est une remontée de balle. Et derrière, il arme. Et on sent que c'est vraiment la maîtrise totale. C'est le génie qui parle. Il veut faire ça, il réussit ça, c'est somptueux.
Alors, on ne peut pas dire que c'est le but de la saison, car la saison est loin d'être terminée. Mais ce sera quand même
plus de l'année 2021.
C'est spectaculaire.
Ça peut être le prix Puskás.
Sauf s'il y a un retourné merveilleux qui est là. Comme...
Alors, moi, j'ai quand même des petites restrictions. Non. C'est un but fabuleux. Ah, aussi. Mais c'est un but en Ligue 1. Alors, la Ligue 1, c'est magnifique. Mais néanmoins, le lob fabuleux de Patrick Schick à l'Euro, 46 mètres, certes. Mais ça, c'est pendant l'Euro. C'est pendant l'Euro.
Ah ouais, donc vous estimez que le joueur, pendant l'Euro, se dit attention, c'est l'Euro, donc ça va être plus dur, donc il va falloir que je me pique davantage.
Il y a un coefficient.
Je lâche les chevaux parce que ce n'est que Ligue 1.
Il y a un coefficient que n'applique pas la FIFA mais que moi j'applique avec l'intensité et l'importance de la compétition. En Coupe du Monde 2010, Espagne-Chili, 46m35, David Villa.
Bah mais ça n'a rien à voir.
Ah, d'accord. Donc vous, c'est la distance.
Mais c'est la distance.
Nous sommes en Angleterre le 21 janvier 2021, cette année. Donc j'ai le prix Puskás. C'est le gardien de Newport County, Tom Kings. Et alors sur un renvoi 5m50, un petit rebond, 96 mètres.
Il n'y a pas l'intentionnalité.
Qu'est-ce que
sur
vous
le
en savez? Vous n'étiez pas dans sa tête de Tom Kings.
Non, mais le ballon rebondit devant l'autre gardien.
Oui,
c'est un dégagement. Ça s'appelle pas un lob, ça.
Bah, ça s'appelle un but de 96 mètres, authentifié par la FIFA.
On parle d'un lob.
Il ne voulait pas le faire. Il ne voulait pas le faire. La caserie, directement, il voit qu'Ukidja est avancé. Il le met et c'est parfait. Ça rebondit juste avant la ligne. Ça rentre au milieu du but. Franchement, il n'aime pas le poteau. C'est parfait.
La concentration qu'il faut. C'est-à-dire qu'il jette un œil, il voit le gardien Messin avancer. Championnat, Ligue 1 ou Euro, ça n'a strictement rien à voir. Et il place le ballon comme il faut.
Oui, mais il faut faire attention parce que tu as parlé du prix Puskás et c'est vrai qu'il est déjà arrivé que dans des championnats ou face à des adversaires plutôt faibles, bah, on a été amené à refuser un but. Donc, de ce point de vue, je te rejoins complètement, Gilles. Mais c'est vrai que c'est spectaculaire.
Il y avait eu un but en Ligue 1 inscrit par Saber Khalifa, 64 mètres, c'était à l'époque d'Evian Tonon-Gaillard, contre Nice, c'était en 2013. Voilà, mais là le record est battu, le but est somptueux. Et vous ne pouvez pas comparer un vague dégagement d'un gardien de but ou même un
vague dégagement, excusez-moi, mais Tom Kings, il est dans l'histoire du football.
Oui, mais il ne le fait pas exprès, Gilles. Il ne s'est pas dit, je vais marquer un but. Il a dégagé, ça rebondit bien, le gardien en face, il est aux fraises et ça rentre.
Non, là, il a tenté, c'est vraiment. C'est ça qui l'échange.
La caserie, c'est ce qu'il veut faire.
Mais vous avez toujours un gardien aux fraises.
Il n'y a pas de rebond, tout est pur là dans le
caserie. Oui, mais vous avez toujours un gardien aux fraises sur un lob de cette longueur.
Pas forcément,
c'est forcément que le gardien est avancé, mal placé.
Oui, puisque c'est un lob, il est forcément avancé.
Et ben donc, exactement. Donc le mien est avancé aussi.
Mais non, s'il est avancé, ça ne veut pas dire qu'il est aux fraises.
Son erreur est quand même plus importante, c'est-à-dire qu'il est avancé effectivement et il prend même pas la mesure de la trajectoire du ballon pour le laisser rebondir et ensuite pour se faire lober par le ballon qui a fait un rebond. Donc ça n'a strictement rien à voir.
C'est le deuxième but le plus magnifique de l'histoire du foot.
Ah, voilà, t'as quand même réussi.
En tout cas, ce but, si vous avez la possibilité de le visionner, vraiment régalez-vous.
Il va faire le tour du monde. Il va faire le tour du monde ce week-end.
Les amis, est-ce que l'on peut critiquer le Paris Saint-Germain? Alors ça, Leonardo, à la sortie du match d'hier soir, a fait une mise au point, on va y revenir. C'est le premier débat. C'est vraiment, a-t-on le droit surtout de critiquer le Paris Saint-Germain? On rappelle le score 2-1 hier soir contre le champion de France Lille. On rappelle une première période exécrable du Paris Saint-Germain. On rappelle le retournement de situation après une heure du jeu. Marquinhos et Di Maria sont passés par là. Et Leonardo, qui passe également par là après le match, pour jouer les pompiers de service. Je résume grosso modo qu'on ait des choses à améliorer, dit le Brésilien, c'est évident. La seule chose que je n'aime pas, c'est la manière de parler, de juger au-delà des limites. Il y a des gens qui ont envie de se faire beau en parlant du Paris Saint-Germain. C'est une promo personnelle, c'est vrai, on ne joue pas bien, on le sait. C'est comme si Pochettino ne comprenait rien au football. Alors je dois vous dire que Leonardo doit viser certaines personnes qui ne travaillent pas forcément sur l'antenne de RTL.
Non, mais plutôt chez les concurrents.
Sur des radios concurrentes et néanmoins amies.
D'accord. Mais qui commence par la même lettre alors.
Ben ouais, non, mais qui commence par citer ce qu'il vise et qui ne met surtout pas tout le monde dans le même sac. Seulement, si on prend un peu de recul malgré tout, au vu des dernières prestations du Paris Saint-Germain, la question générique est la suivante. A-t-on le droit de critiquer le Paris Saint-Germain?
Mais bien sûr, on a toujours tous les droits par rapport à ça. Il y a la forme et la manière. De ce point de vue, je comprends Leonardo. Après, il est dans son rôle. Moi, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, en ces moments, quand vous voyez que tous les matchs, les derniers matchs, Lyon, Metz, Angers, Lille, Leipzig, ils ont été gagnés à la dernière minute, quasiment ou presque, bah, on s'est dit que peut-être les joueurs, ils sont un peu dans la fable de la lièvre et la tortue. Ils se disent, bah, ça sert à rien de courir. Allons-y, on va gagner quand même. Mais ça n'empêche pas que nous, on doit rester quand même objectifs et on analyse, je pense qu'on les fait tous, des façons objectives lorsqu'on dit que le PSG, il a fait deux matchs différents face au LOSC. Il a fait 60 minutes qui étaient vraiment insupportables. Et moi, sur Instagram, j'étais un peu comme Leonardo décrivait, j'en pouvais plus. Et les 30 dernières minutes qui étaient vraiment excellentes.
A-t-on le droit de critiquer le Paris Saint-Germain, Gilles Verdez?
Pas comme ça. Leonardo, il connaît.
Attendez.
On n'a pas le droit de critiquer le PSG en faisant du PSG bashing à tout crin comme en ce moment, en disant ils sont nuls, il n'y a pas de fond de jeu, c'est insupportable.
Mais c'est la réalité, Gilles.
Pochettino est une nullité, etc. Bah, on n'a pas le droit.
Nul peut-être pas.
Bah, c'est ce qu'on dit.
En première période, ça a sans doute été la première période la plus exécrable sous l'ère Pochettino. Ça, c'est le premier
c'est
point.
C'était mauvais, hein.
C'était ouais. Vraiment, c'était très
on
mauvais.
On va l'analyser sportivement, mais c'était mauvais.
Et de quel style de jeu?
Non mais les critiques. Non mais votre question c'est a-t-on le droit? Oui. On n'a pas le droit de se payer le PSG. Or Leonardo sait très bien
mais
que
si on est en
y a
France,
des journalistes.
On est dans un pays libre.
Bah enfin, oui
désolé,
mais
Gilles.
Oui ok.
Après
bien
il
ne
faut
sûr.
Pas les insulter. Là
Gilles,
on est d'accord.
Leonardo mais... a travaillé en Italie c'est pire.
Non ouais. Alors quand il est moi je l'avais vu au téléphone quand il est revenu au PSG son obsession c'était qu'on nous aime. Comment il me disait mais comment peut-on être aimé? Et comme il voit que ça marche pas et comme il pense que ça dépasse très largement le cadre journalistique mais que c'est une campagne de presse orchestrée pour faire virer Pochettino il est pas débile Leonardo. Parce que certains veulent placer Zidane ou autre, ouais. Etc. Comme il sait ça, je trouve qu'il a raison là de défendre l'institution.
Là, Gilles, vous pensez qu'il y a une théorie là-dessus sur oui. Le théorie du complot sur le PSG?
Bien sûr, bien sûr, certains veulent virer Pochettino pour mettre Zidane,
mais
évidemment.
Mais qui,
des gens qui sont amis de Zidane,
comme Leonardo,
non, mais des gens qui sont amis de Zidane, tout le monde le sait.
C'est toujours comme ça.
Où là, il y a vraiment une contradiction énormissime dans la théorie de Gilles Verdez, c'est qu'on va le citer. Il travaille pour une radio concurrente, c'est Jérôme Rotten, qui a vraiment tué Pochettino et qui a tué Neymar. Et Rotten, Zidane, excuse-moi, ce ne sont pas les deux meilleurs camarades du monde.
Non, non. Mais il n'y a pas que Jérôme, moi je ne citais pas Jérôme Rotten, il y a globalement une campagne médiatique ourdie contre le PSG.
Et c'est dans Le Parisien que Rotten s'est également exprimé. Oui.
Mais enfin, je suis désolée, mais c'est pas ça les soucis. Je pense que Leonardo, lorsqu'il parle, il parle parce que chaque année, c'est la même chose. Et c'est
ça date de service.
À chaque fois, l'entraîneur est nul. Et à chaque fois, hop, rebelote. Donc au bout d'un moment, je pense que les dirigeants du PSG se rendent bien compte que les problèmes, ils se situent
déjà, je n'ai pas compris pourquoi il est intervenu hier soir, parce que franchement, pour le coup, je pense pas qu'en ce moment, on peut se dire que c'est la catastrophe, c'est pas la fameuse crise qu'on a connue de l'automne du PSG, tout va bien, au niveau des résultats en tout cas. Après, au niveau du jeu, on se rend bien compte, on est tous conscients que de toute façon, pour le moment, depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain ne joue pas bien. Et on est critique cette année parce que Pochettino nous a fait l'article l'année dernière, oui, mais moi je suis arrivé en cours de route, faut me laisser le début de saison, la préparation, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est là que je vais mettre en place mes idées. Pour l'instant, on voit pas grand chose. Alors oui.
Ah, je suis désolé, je suis pas d'accord. Tactiquement, face au LOSC, moi j'ai vu quelque chose. Moi
oui,
j'ai vu
sur,
et je l'ai vu.
Sur une demi-heure, il passe en 3-5-2.
Si je vous explique pas, vous comprenez pas. Je dis par rapport au LOSC et par rapport à Leipzig. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ces changements? Les gens ils disent c'est l'individualité, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait il a changé des systèmes avec trois joueurs derrière. Ça marche très bien. Mais oui, mais à chaque fois t'as les mêmes résultats. Ça fonctionne.
Alors je te pose une question.
N'oubliez pas que tous ceux qui nous écoutent ne connaissent pas forcément le football à 100%. Etc. C'est-à-dire que.
À toi derrière, ça veut dire que Marquinhos.
Il y a une tactique, effectivement, avec 4 ou 5 défenseurs employés de temps à autre et même plus souvent par le Paris Saint-Germain et par Pochettino. Et quand il voit que ça ne fonctionne pas face à l'adversaire, il ne met que 3 défenseurs et à droite et à gauche, il positionne les joueurs qui ne sont pas véritablement des défenseurs, mais qui sont des pistons.
Les latéraux.
Pour mettre sous pression davantage l'adversaire et pour, d'ailleurs, pourquoi le fait il pas
justement c'est ce que j'allais dire
pour avoir la possession de balle plus importante.
Alors moi je sais pourquoi parce qu'en fait il est face à un adversaire qui s'est mis en 4-4-2, c'est typiquement les LOSC, c'est comme ça, et ça fait qu'en fait, les Paris Saint-Germain a plus du mal. Les Paris Saint-Germain est peut-être un peu trop axial. Et donc, ça leur permet de mieux faire circuler les ballons. D'être, et c'est ce qu'on a vu.
Et
c'est
pour ça que.
Mais la problématique aujourd'hui, ce qu'on reproche à Pochettino, c'est que d'avoir un matériel extraordinaire, du jamais vu dans l'histoire du championnat de France, du jamais vu dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Et donc, du coup. Très franchement, en termes de match, en termes de qualité de jeu, il ne se passe pas grand-chose.
En
aujourd'hui,
60 minutes,
PSG,
c'était nul.
C'est
ouais.
des individualités. Après, une fois que tu as dit ça, on est dans notre rôle, on est journaliste. Derrière, tu peux expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Mmh. Parce que Lionel Messi est arrivé, il est à court de forme, il n'y a pas eu de préparation, il a 34 ans, il part
toutes
les 3 semaines.
Il ne peut pas tout penser, Messi.
Non,
il part toutes les 3 semaines.
Il part toutes les 3 semaines.
Neymar et Mbappé, on va en parler. La conclusion très provisoire avant une première page.
Pour moi, excusez-moi, mais ce n'est pas le débat. Leonardo, il se fout totalement du fond de jeu, de la manière dont joue le PSG. Intervient jamais là-dessus. S'il intervient là, mais oui, mais il est obligé, il va pas juste dire Pochettino. Si le seul propos qu'il a, c'est Pochettino, parce que contrairement à quand ils ont viré Camboire ou Tourelle, ils ne veulent pas virer Pochettino. Là, ils ont pas envie de le virer tout de suite. Et il se rend compte qu'avec l'intensité des critiques qui visent Pochettino, il est obligé de monter au front pour défendre son entraîneur. C'est tout.
Avec 31 points. Et avec une qualification qui se profile en Ligue des Champions, comment tu peux, là, pour le coup, politiquement, puisque c'est un club également extrêmement politique, comment tu peux virer Pochettino maintenant? C'est absolument impossible. C'est inaudible.
Mais la marée médiatique contre Pochettino est incroyable.
Oui, il y a eu pire, mais ils ont tous été virés. Rappelez-vous, Gilles, avec Tourelle, notamment.
Il a été viré.
Ça a été le bashing. Et Leonardo a parlé.
Il a été viré.
Je suis d'accord avec Florian. Moi, je ne comprends pas en termes de temporalité. Pourquoi il sort là? Il est premier, comme l'a dit Christian. Ils sont premiers d'un groupe qui est quand même pas très facile en Ligue des Champions. Il n'y a aucune équipe qui surfe sur tout le monde en Europe. Aujourd'hui, ce n'était pas le moment de sortir du bois.
18h47, on va parler de Messi, le mal-être peut-être de Messi. On va parler de Neymar qui avait un peu la rage hier, on l'a vu. On va parler de Mbappé qui est malade mais qui est au stade et qui participait à une grande réunion la veille au soir et qui n'était pas à l'entraînement. Alors, on ne comprend plus rien, mais on va d'abord tourner une page de publicité. Je voudrais simplement préciser que sur le but égalisateur du Paris Saint-Germain, la touche, elle est normalement lilloise. Merci Lavar. Et la touche de Neymar est absolument.
Mais, même en district, on vous siffle ça.
Mais tu ne fais pas une touche en marchant.
Non. Non, et puis même avec les gestes de la main, c'est.
Bref.
C'est
pas oui, bon. Alors, peu de gens le savent, mais il faut donner normalement la même impulsion en faisant une touche et pas faire une grosse impulsion avec la main droite.
Dimanche matin, c'est sifflé ça.
Mais bien sûr, c'est sifflé. Tous les dimanches matins.
Ah oui, mais c'est vendredi soir.
Publicité.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match, les débats dans un instant. Le direct tout de suite, Dimitri Ramelot, le Stade Saint-Symphorien.
Oui, nous sommes dans le temps additionnel, toujours un but partout entre les deux équipes. On vous rappelle donc ce lob de Kazri à la 16e minute, 68 mètres, qui a égalisé pour son équipe qui était menée depuis la 9e, et un coup franc direct de Boulaya à 30 mètres. On pensait déjà avoir tout vu de ce match et en fait non, il fallait attendre 7 minutes de plus, quelques minutes de temps additionnel ici à Saint-Symphorien. Un but partout, un résultat qui pour l'instant ne fait l'affaire d'aucune des deux équipes.
Oui, deux clubs qui vont repartir dos à dos si ça n'évolue pas. Effectivement, il reste une poignée de secondes. On va valider le résultat dans un instant avec Dimitri. Ramelot, attention quand même parce que ça chauffe dans la surface de réparation.
Ouais, ça frappe au-dessus de la transversale à l'instant. Il y a des occasions encore des deux côtés. Ça peut-être encore marquer un but, mais on sent beaucoup de fatigue parce que ça jouait la peur au ventre. Mais ça a voulu quand même jouer au football ce soir et c'est après ça, il faut féliciter quand même les deux équipes.
Bien sûr, et là en l'occurrence, c'était une action stéphanoise. Les messages sur le compte @RTLFoot, Baptiste Durieux, que je n'ai pas salué en début d'émission. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Effectivement, beaucoup de messages sur Leonardo. Ludovic nous dit je vais éviter de donner mon avis sur la sortie médiatique à la fois catastrophique et cataclysmique de Leonardo. Marlon nous dit que ça devient pathétique de sortir du bois pour jouer les Saint-Bernard et sauver le PSG de l'avalanche qui arrive doucement. Hugo nous dit que on sait que quand il parle, Leonardo, la sérénité n'est pas de mise. Il se fourvoie, c'est ridicule. Quand il parle, on sort les pop-corns. C'est plus divertissant qu'enrichissant. Et message d'Alexis pour parler un petit peu de manière positive de directeur sportif parisien. Il nous dit Leonardo est au quotidien au club avec le coach et les joueurs. Il sait mieux que nous tous. On peut tous évidemment avoir un doute sur sa sincérité, mais on peut aussi avoir un doute sur ce qu'on pense savoir aussi. Leonardo ne renie pas le manque de jeu. Il admet aussi qu'il faut progresser et trouver le bon système. Et sur le plan comptable, Paris est très bien et il a raison. Il est dans son rôle en plus et il cherche à détourner l'attention sur lui et c'est bien normal.
Les messages sont intéressants, merci Baptiste, même si sortir du bois ne paraît pas être l'expression la plus appropriée dans les temps qui courent. C'est terminé entre Metz et Saint-Etienne, Dimitri Ramelot.
Oui, c'est terminé, un but partout. un but partout entre les deux équipes. Coup franc direct de Boulaya, 30 mètres à la 9e minute pour le football club de Metz. Et donc cette égalisation stratosphérique de Cazerie pour Saint-Etienne, un lob de 68 mètres à la 16e. Elles ont essayé, les deux équipes, de faire la différence. Elles ont beaucoup joué au football ce soir, mais ça n'a pas fonctionné plus que ça.
Réaction évidemment, commentaire, débrief à partir de 20h dans RTL Foot. Gilles Verdez,
on peut reparler de Leonardo ou pas?
Mais au moins jusqu'à 19h.
Mais parce que moi, ce que je comprends pas, c'est qu'avant, on lui reprochait de parler à tort et à travers. Maintenant, il réserve ses interventions pour quand c'est important. Et là, il avait des messages à faire passer. Je garde Pochettino. Non, on y reviendra. Non, Neymar ne passe pas sa vie à sortir parce que c'était le deuxième homme qui voulait défendre, Pochettino, Neymar. Et en plus, il dit, on veut gagner cette année, c'est sûr, on a l'effectif pour. Donc là, il dit aussi à Pochettino, si jamais à la fin de saison, tu ne gagnes pas la Ligue des Champions, tu dégages. C'est clair, son message. Je comprends pas ce qu'on reproche à Leonardo sur ce coup-là.
On n'a pas écouté la même interview parce que j'ai pas entendu Leonardo dire, je ne vire pas Pochettino et Neymar pas ne passe pas.
Ouais, mais ça, Christian, il va pas dire explicitement. C'est sous-entendu.
Cette fois-ci, vous interprétez, vous,
c'est du Leonardo dans le texte.
Non, mais Gilles, c'est pas logique. Un entraîneur se retrouve sur la sellette quand éventuellement il y a une suite de mauvais résultats et là le directeur sportif vient lui donner le baiser de la mort ou le soutenir. C'est généralement la même chose. Là il y a aucune raison de le faire. Je veux dire, aucune raison de le faire. Alors certes, on trouve que Pochettino pour le moment n'arrive pas à faire juste équipe, mais il y a pas le feu à la maison. Quant à Neymar, il est hors de forme depuis le début de saison, sauf pendant 20 minutes hier soir. On connaît la problématique Neymar. Je veux dire, encore une fois cette semaine, rien que cette semaine, je sais pas à quelle heure du soir, il poste 2 bouteilles de rouge vide sur son compte Instagram. Neymar donne aussi le fouet pour se faire battre, donc il n'a pas besoin d'être défendu par Leonardo.
Oui, mais il a toujours été provocateur, on le sait depuis qu'il était au Brésil, donc il est comme ça. Après, est-ce qu'en réalité, quand il sort, est-ce qu'il boit comme ça? J'ai pas la certitude. Mais en tout cas,
c'est pas le problème, Cindy, que de sortir. On parle de l'hygiène de vie, sortir,
boire
des coups.
Après, sur le terrain.
Et puis c'est aussi, Instagram, j'y vais peu, et même pas du tout, mais on me rapporte ce qu'il y met, et on constate quoi? On constate aussi que très tard, le soir, dans la nuit, il continue de jouer au où ils regardent les telenovelas heure brésilienne.
Si vous regardez les telenovelas.
Alors ça, c'est pas sortir, mais si vous regardez de la télé à 4h du matin et que vous devez aller au camp des loges à 9h, ça pose un problème à un moment.
Non, mais il y a aussi un mal-être, mais il a exprimé récemment son mal-être également. Moi, ce qui me gêne plutôt de toute cette histoire, c'est de me rendre compte que quand Messi sort du terrain, c'est là qu'on voit un Neymar libéré. Ça m'inquiète sportivement. Parce que je me dis que normalement, on a mené Messi pour vraiment faire ou revivre ce qu'on avait vécu avec, enfin pas les PSG, mais au Barça. Et puis finalement, on se retrouve à voir que ça fonctionne bien
Ce que dit Cindy est très important, ça m'a frappé également. On a trouvé davantage de rage, la volonté de vaincre, de se battre.
Avec Di Maria. Ils se sont retrouvés, en fait.
C'est surtout Di Maria qui est entré
en seconde période. Une fois que Messi n'était plus là, ça ne vous a pas marqué?
Non, moi je ne suis pas pour le. Je suis léonardien, moi, là. Je ne suis pas pour le bashing qui s'orchestre sur Messi est mauvais, Neymar sort. Verratti est blessé parce qu'il sort tout le temps. Voilà.
Donc je trouve que bien, alors.
Oui, enfin, le problème n'est pas de bien jouer au foot.
Non, mais
après, bien jouer au foot, c'est toujours des notions subjectives. Moi, j'ai jamais compris qu'on dise il y a un fond de jeu, on joue bien. Pour moi, le seul moral du foot, c'est vous gagnez ou vous perdez. Donc là, le PSG gagne.
Didier Deschamps sort de ce corps.
Bon, Neymar, c'est fait. Messi, madame, messieurs, Messi.
Non, mais vous pourrez venir.
Avec Lionel Messi, parce que moi, je veux bien. J'ai entendu son fourche hier dans RTL Foot avec les camarades qui viendront ce soir à 20h. Et on peut, l'acclimatation, les nouveaux partenaires, le club, l'environnement, ok, tout ça.
La prépa.
Est-ce que ça justifie quand même, quand on s'appelle Messi, 6 ballons d'or, des contrôles, alors qu'il n'est pas sous pression d'adversaire, je termine, vraiment très approximatif, et encore quelque chose de plus basique, un coup franc, sa spécialité, avec un ballon au-dessus à 5 mètres de la transversale. C'est-à-dire, c'est pas l'environnement, c'est pas les nouveaux partenaires, c'est pas la préparation.
Bien sûr que non, mais sauf que là, hier soir, il n'était pas en état de jouer. Il s'est pas entraîné durant la semaine. Di Maria le dit après le match, il avait des petites douleurs.
Honnêtement,
à 34 ans, tu peux pas jouer tous les matchs comme ça, c'est
pourquoi
pas possible.
Pourquoi tu le fais jouer alors?
Mais parce que après, on sait, ça se trouve, Pochettino lui a juste demandé est-ce que t'es apte, est-ce que t'es dispo. L'autre a dit oui, ils sont testés 45 minutes.
Mais c'est
honnêtement,
surtout...
il n'était pas apte à jouer. Après, de façon plus générale sur Lionel Messi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est arrivé trop tardivement, il manque de préparation. Il y a des voyages qui sont longs et coûteux en sélection nationale en septembre-octobre. Quand vous avez 34 ans, un nouveau climat, c'est difficile à encaisser. Honnêtement, c'est pas devenu le mauvais joueur comme ça en quelques mois. Il faut un peu de temps.
Il a manqué une seule séance, il n'a pas manqué des séances.
Non, il a manqué une seule séance, mais quand il va en Argentine, quand il rate un match pour revenir, quand il part 10 jours avec le changement de climat, le changement d'horaire, etc., ça rentre en ligne de compte. Et aujourd'hui, il a 34 ans.
Bon, après, c'est plus il est quand même habitué. Ans. Oui,
oui, alors, oui. Sauf
te rejoins sur cette. Non, mais ton constat, je te rejoins évidemment. Évidemment qu'il y a les matchs. Là, tu es vraiment dans la ligne de Leonardo. Complète, là, c'est la ligne de Leonardo. Mais après, on savait à quoi s'attendre, certes. Et ça, c'est un autre débat sur les ballons d'or. Messi, aujourd'hui, n'a pas la forme physique qu'a un Benzema. Enfin, athlétiquement, c'est l'âge.
Après, concernant Messi, le débat qui s'installe à l'âge aussi, c'est était-il blessé ou s'agissait-il d'une blessure musculaire ?
Musculaire, apparemment, non. C'est pas ça.
En plus, Messi, franchement, il n'est pas venu pour gagner la Ligue 1. Il ne sait même pas ce que c'est, le pauvre Messi. Lui, le seul truc qui l'intéresse, et il montre un visage différent, c'est en Ligue des Champions. Là, il est différent en Ligue des Champions. Ouais, vous ne croyez pas ?
C'est non, à la marge, hein, quand même. C'est pas encore extraordinaire.
Non, mais c'est beaucoup mieux qu'en Ligue 1. Vous n'allez pas me dire que Messi s'intéresse au match en Ligue 1. Oui, Messi, il est venu là avec ses copains pour gagner la Ligue des Champions. C'est le seul objectif du PSG cette saison. Je suis désolé.
Tu crois vraiment que Messi, il n'a pas envie de marquer aussi des buts en Ligue 1 et que pour l'instant, il n'en a pas mis ? Moi, je pense que le problème de Messi, tout simplement, c'était la grande interrogation qu'on a eue pendant des années et des années. Est-ce que Messi est capable de jouer ailleurs qu'à Barcelone ? Pour le moment, il découvre que c'est pas évident de changer de club, de changer d'environnement, de climat, de partenaire. Il jouait les yeux fermés à Barcelone, même si ça jouait mal autour de lui. Tout le monde jouait pour lui. Paris, c'est différent. Hier soir, en plus, il était privé d'Mbappé, qui est peut-être le joueur avec lequel, pour l'instant, il fonctionne le mieux.
Lionel Messi, qui n'a pas encore marqué un seul but en Ligue 1, qui n'a pas délivré une seule passe décisive. Mbappé, malade, il a mal aux oreilles. Forfait à l'entraînement jeudi également, qu'on retrouve dans une grande réunion publique sur scène avec beaucoup de monde pour clamer son amour des Jeux Olympiques le soir et qui ne joue pas le vendredi. Il n'y a pas une incohérence quelque part là ?
Qu'est-ce que vous sous-entendez ?
Je ne sous-entends rien, je me pose des questions. Et, je veux dire, il participe à quelque chose de très important le jeudi soir, il ne participe pas à l'entraînement le jeudi matin parce qu'il est malade, il ne joue pas le vendredi. Voilà,
Ah, mais là, il est au service de Paris 2024, Christian. Ah,
Il n'est pas au service du Paris Saint-Germain là-bas.
Bah, là, c'est de la communication. Pour le coup, il n'a pas un esprit mercantile.
L'un n'empêche pas l'autre.
Il est dans une sorte de.
Mais quand tu es malade, toi, Gilles, tu restes pas chez toi, tu prends pas des antibiotiques.
Bah, c'est vrai que si je suis malade, je sors pas à une réunion, mais je suis pas Mbappé. Lui, on lui dit il faut absolument venir parce que tu es l'ambassadeur plénipotentiaire de Paris 2024,
l'image,
s'il te plaît.
J'ai l'image.
Ah, oui, ouais, mais quand on connaît un peu sa boulimie par rapport au fait d'enchaîner les matchs, de jouer, de marquer tout le temps, j'ai du mal à croire qu'il se soit fait porter pâle pour un match du PSG hier soir.
Allez, une page de pub, les informations de 19h. On s'accordera quelques instants derrière les informations de 19h pour parler également de l'extra-sportif du Paris Saint-Germain et ensuite de Lille. Lille en championnat qui déçoit, Lille en Ligue des Champions qui déçoit également. Restez avec nous si on fait le match.
RTL, on refait
le match sur RTL
avec Christian Olivier.
La suite dont refait le match avec en studio Cindy Colmenares, Gilles Verdez, Florian Gazan et Baptiste Després. Avec à 20h, toute l'équipe d'Eric Silvestro à ses côtés, Giovanni Castaldi et avec également Xavier Domergue et... je me souviens de la petite réflexion d'hier soir. J'oubliais toujours, de samedi dernier, j'oubliais toujours quelqu'un. Avec Baptiste Durieux également sur RTL Foot pour l'intégralité, le match du soir, bien sûr. En vous rappelant quand même le résultat du match de 17h, c'est l'équipe de Metz et celle de Saint-Etienne qui ont fait match nul. Un but partout. Il y aura plein de belles choses, décryptage de cette rencontre, évidemment. Et puis le Conseil de l'Europe, toute l'actualité européenne. À ce propos, j'en profite pour vous dire que Séville, prochain adversaire de Lille, a battu Osasuna sur le score de 2-0 et match en cours actuellement 0-0 entre l'Eintracht Francfort et Leipzig. La Ligue 2 a démarré également depuis une petite poignée de minutes, Baptiste Durieux.
Absolument, 0-0 sur toutes les pelouses, on joue depuis 7 minutes. Je vous rappelle les affiches: Bastia Amiens, Caen Grenoble, Dijon Paris FC, Dunkerque Le Havre, Nancy Sochaux, Nîmes qui reçoit Niort, Pau AC Ajaccio et Rodez Quevilly-Rouen. A noter que le leader Toulouse a fait match nul de partout face à Guingamp au Stadium. Toulouse, qui reste donc leader avec 2 points d'avance sur Sochaux. A noter le très beau but côté Guingampé, l'égalisation de Youssouf Changama, que je vous conseille absolument, une frappe fantastique. Et beaucoup de messages également, Christian, par rapport au débat sur Lionel Messi. Il y en a eu énormément hier soir, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. François nous dit Messi, aussi Messi soit-il, n'est pas imperméable au problème de footballeur lambda. Nouveau championnat, nouveau pays, nouvelle équipe. Évidemment, il terminera meilleur buteur de Ligue 1. Soyons patients, on n'a pas le droit d'avoir des doutes sur Messi. C'est l'avis tranché de François. Et Marc nous dit, on peut raconter ce qu'on veut, Messi marche, rate ses coups francs, des contrôles, des passes, il est pas dedans. Et oui, c'est grave, oui, il y a un problème, c'est Messi, on ne doit pas être indulgent.
Non, j'ai un doute par
rapport
à Messi.
Merci Baptiste, vous continuez de nous rejoindre sur le compte @RTLFoot, c'est Nicole Ménares.
Ça fait depuis 2005-2006, Messi n'avait pas, en novembre comme ça, on n'avait pas vu qu'il n'avait pas marqué, je parle d'une ligue, enfin de la ligue, où fait des passes décisives. Donc pour moi, oui, c'est inquiétant. Je ne vois pas pourquoi on les minimise. Tout Messi qu'il est, un joueur que j'adore, mais il ne faut pas les minimiser.
Il s'en fout de la Ligue 1, selon Gilles Verdez.
Voilà, bon, mais ça peut être ça. Je ne crois pas. C'est quand même un grand joueur très professionnel. Ça m'étonnerait que ce soit ça.
Il y a le ballon d'or qui chauffe et il a intérêt à faire quand même des derniers mois.
Voilà, c'est terminé.
Oui, il avait intérêt, depuis qu'il était à Paris, à briller pour assurer ce ballon d'or.
C'est étonnant, ouais.
Bon, comme ce sera N'Golo Kanté, de toute façon.
Ah bon ? Ah, ça, c'est les biens.
Ce serait tellement bien.
Les Vandoski, si c'est les deux saisons. Hein.
Bon, on a parlé de la communication de Leonardo, on a parlé de la méthode Pochettino.
Des frasques de Neymar.
Des frasques. Ah, c'est vous qui le dites.
Excusez-moi, je le dis, mais vous aussi. Vous le disiez tout à l'heure.
Non, j'ai pas employé le mot frasque.
Non, je l'emploie moi.
Des petits écarts.
Du mal-être peut-être de Messi pour l'instant et de Mbappé. On va en parler encore de Mbappé. Parce que je voudrais qu'on revienne quand même sur les événements de la semaine. Alors, il y a eu notre ami Herrera qui a été agressé au Bois de Boulogne. Et il y a eu le couple Icardi qui s'est déchiré, qui s'est exposé, qui s'est réconcilié. Et puis tout de même, je remets une petite pièce sur Mbappé qui était malade cette semaine, qui s'est pas entraîné jeudi matin, qu'on a vu sur une grande scène publique le soir même clamer son amour pour les Jeux Olympiques. Et il était forfait, vous le savez, hier soir, il était en tribune. Et me revient cette petite phrase de Pochettino en conférence de presse devant le micro RTL, notamment de Philippe Sanfourche, qui disait « Mais moi, je suis là pour mettre en place un projet sportif, point final. » Et qui ne voulait donc pas commenter les événements extra-sportifs qui se croisent également avec les événements sportifs. C'est quand même pas un club comme un autre.
Non. Mais ça ne l'a jamais été. Ronaldinho, quand il faisait venir des prostituées au Sofitel, à l'époque, on en parlait aussi. Il y a toujours eu des frasques à Paris. Il y a énormément de joueurs, il faut pas être dupe non plus. Il y a beaucoup de joueurs qui signent à Paris parce que c'est Paris et sa vie nocturne. Voilà, il y en a même dans l'équipe actuelle et qui pensent plus à sortir qu'à jouer.
Qui découvrent les lumières parisiennes.
Absolument. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'autres équipes de province, qui arrivent à Paris, qui sont très bons. Et on en a eu plein dans toute l'histoire et qui se liquéfient totalement et qui profitent des volutes des nuits parisiennes.
Ça, Gilles, c'est pas un problème si derrière, sur le terrain, finalement, tout va bien.
Mais non, mais
on parle d'un Mauro Icardi depuis combien de mois. C'est plus un joueur de football. Depuis combien de mois il met plus un pied devant l'autre? Depuis combien de mois il n'a pas mis 25 buts?
Et pourtant, c'est un joueur des talents.
Je dis pas que c'est un problème.
Non, mais je suis d'accord avec ton état de fait, mais sur ce côté-là, Mauro Icardi, aujourd'hui, il a presque des kilos en trop. Enfin, c'est compliqué de dire que Mauro Icardi vaut ce qu'on lui donne chaque mois.
C'est pas le blues, c'est les barbecues pour Icardi. Non, mais après, il y a une chose qui est claire, c'est que tout ce qui se passe à Paris se passe dans tous les autres clubs de France. Toutes ces histoires de machins, de prostituées de sortie, ça se passe partout. Il y a même des joueurs d'autres clubs qui viennent à Paris pour sortir. Sauf que comme c'est Paris, c'est Paris, c'est le gros club, le big club, c'est ce qui fait vendre. Tout le monde, il y a un effet loup permanent sur Paris. Donc le moindre petit truc est monté en épingle parce que ça fait parler tout le monde. Il faut remplir les journaux, il faut remplir les sites internet.
Et tous les médias sont là, Florian aussi. Tous les médias bossent sur tout ce qui se passe.
Il y a les médias, remplir les journaux, mais les journaux s'appuient sur des informations quand même avérées.
Oui, mais je veux dire par là que l'histoire d'Herrera, c'est quand même pas non plus l'affaire du siècle, et ça fait deux jours.
Qui ça, Herrera?
Herrera, l'histoire au Bois de Boulogne. Ah,
bonne question.
Elle est drôle.
Là, pour le coup, est-ce qu'on en fait pas trop?
Je veux dire.
Herrera agressé au Bois de Boulogne.
Mais il y a rien, il y a 200 balles, il ramène. Enfin, je sais pas, c'est pas non plus l'affaire du siècle. Et là, on a l'impression que pendant deux jours, c'est le truc.
Mais là, je suis pas d'accord avec vous. C'est quand même une histoire hallucinante. Enfin, le joueur du PSG qui sort du Parc des Princes, agressé au Bois de Boulogne. Ils sont surbriefés. On leur dit ne traversez jamais le Bois de Boulogne. Le gars, il y va. Tout est possible. Franchement, là, on n'a pas les tenant et aboutissant.
Et bien même, il irait au Bois de Boulogne se promener.
Ça devient donc une frasque nocturne d'un joueur du PSG. Se promener, vous voulez dire.
Il rentre chez lui, c'est pas une frasque. Alors, si les frasques nocturnes commencent à 19h, il y en a beaucoup.
Non, mais c'est dans l'extra sportif, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle une belle affaire.
Non, c'est plus grave, il y a beaucoup plus grave.
Non, mais j'ai pas dit que c'était grave, j'ai dit que c'est spectaculaire, c'est le PSG, c'est un international. Donc, moi, je trouve que là,
non, mais en tout cas, il y a la conférence qu'on en parle, sincèrement, on parle pas trop de ça à l'étranger. Par contre, on parle effectivement du fait qu'Icardi, qui est un grand joueur de football, football quand même, il n'est pas mauvais en tout cas.
C'est un très bon joueur de football.
Et qu'il perd récemment. Mais il ne faut pas oublier que face au LOSC, c'est grâce à l'entrée d'Icardi qu'enfin on a eu un 9 aussi au PSG, et ça a amené, même si lui il n'a pas marqué, ça a quand même amené des occasions. Donc moi ce que je retiens de ces matchs, c'est que Mbappé a énormément manqué et je ne vois pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça. Pour moi c'est un joueur qui manque beaucoup au PSG. À chaque fois il est toujours sous des critiques, mais voilà, Verratti.
Alors,
à chaque fois,
il porte le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Mbappé.
Non mais de qui on critique énormément l'hygiène de vie de Verratti. Mais regardez quand il n'est pas là, comment ça se passe, comment sont les matchs du PSG.
Mais c'est parce qu'il a une mauvaise hygiène qu'il n'est pas là tout le temps aussi.
Non,
là,
mais
faut pas...
ça, c'est vous qui le dites. Vous n'êtes pas médecin. Moi, ça m'énerve beaucoup quand j'entends ce genre de choses, parce que je me dis, c'est un joueur qui apporte énormément de verticalité, qui est toujours très, très bon quand il est présent.
Tu as vu la stat quand même qu'un match sur deux depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, il est absent.
Comme mais regarde, tu as des joueurs. Pastore, tu te souviens. C'est des joueurs qui parfois ont des fragilités. Ça ne veut pas dire. Il y en a des gars qui font 10 000 fois plus la fête.
C'est le cas,
franchement,
oui.
On les voit. Ils font 1000 fois plus la fête et se déchaînent 1000 fois plus. Et ils sont là tous les temps sur les terrains.
Marco Verratti, on sait qu'il a un penchant quand même pour les soirées parisiennes. Et c'est pas une critique, c'est juste que derrière, tu joues un match sur deux au Paris Saint-Germain.
Il y a beaucoup des fantasmes autour de ces soirées parisiennes. À la fin, il ne se passe pas grand-chose.
C'est le Paris qui brille et qui déstabilise les joueurs qui cèdent à la tentation. Très bien. même chose pour Lille. Hein.
Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À Lille, on fait la fête aussi, alors.
Il y a moins de tentations quand même à Lille qu'à Paris.
On sait faire la fête
vous
aussi.
Vous voulez dire
à Lille,
que les Lillois sont moins intéressantes que les Parisiennes?
Ah, mais c'est pas permis.
Hier soir,
Lille mardi à Séville. Attention, c'est un match qui peut d'ailleurs sceller l'avenir du club nordiste. Franchement, Lille décevant depuis le début de la saison. 1 point sur 9 en championnat. 1 point contre Clermont, Brest et le PSG. Franchement, quand je pense aux plaintes de Leonardo sur le traitement infligé aux Parisiens, à Lille, ils ont vraiment la vie facile. Est-ce qu'on a le droit critiquer Lille ou simplement uniquement de les applaudir que lorsqu'ils sont champions de France?
Mais bien sûr qu'on a le droit de les critiquer et on le critique, on l'a déjà fait sur ce plateau maintes et maintes fois le samedi. Ça va être une année difficile pour Lille et franchement je trouve que autant on est assez objectif depuis le début de saison, autant hier soir pendant une heure ils font un match génial, ils sont très bons. J'ai retrouvé le LOSC de l'année dernière, même s'il n'y a plus Galtier. Hier il y avait quand même je crois 10 Lillois, 10 champions de France sur 11 au coup d'envoi. Ils font un super match,
sauf le gardien de but.
Exactement. Ikone et Bamba ont été excellents, Yilmaz a été très bon, Renato Sanchez
Yilmaz c'est un semi-remorque.
Honnêtement pendant une heure ils ont
Yilmaz a réussi à prendre de vitesse Kerrer sur le premier but, sur le but.
On parle de Kerrer,
ma mère elle prend de vitesse Kerrer.
Et franchement, moi, Yilmaz, j'en parle très librement parce que ce joueur m'a ébloui la saison dernière. Vraiment, j'adorais. J'étais fan d'Yilmaz.
Depuis les débuts de la saison. Et justement, si on me demande pourquoi Lille est dans cet état, moi, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que Jonathan David, c'est sur lui qui repose son équipe. Parce que si vous voyez, tous les buts ont été marqués par lui. Yilmaz, on l'attendait. Il n'est pas au niveau de ce qu'il avait été par le passé. Et ce, depuis la saison dernière. Sanchez, c'est vrai, ça leur avait manqué. Là, il revient. Et oui, effectivement, il nous montre qu'avec lui, Lille se bonifie. Moi, j'ai beaucoup aimé leur jeu des 60 premières minutes avec leur transition rapide. Vraiment, la façon, tout ce qu'ils ont apporté. Mais ce qui m'inquiète,
transition
c'est que je
me dis... Transition rapide jusqu'aux 30 mètres, hein, Cindy. Hein. Mais dans l'avant-dernière et dans la dernière passe.
Il y a
deux choses qui m'inquiètent par rapport à Lille. C'est que effectivement, ils sont en Champions League et que leur jeu est trop prévisible. C'est toujours les 4-4-2, même si là, Gouarnec l'a un peu remanié, mais c'est toujours pareil, la même chose. Et ce qui m'inquiète d'autre par rapport à Lille, c'est que la faiblesse du PSG a peut-être joué.
Moi, je crois qu'ils sont bouillis mentalement, c'est-à-dire qu'ils ont trop donné. C'est trop dur d'être champion quand on est à Lille et après on s'effondre. Et là, ils y sont plus du tout mentalement.
Ils n'étaient pas en sur-régime la saison dernière.
Bah, complètement. Mais c'est les années où tout rigole. C'est l'année comme l'année où Montpellier est champion. Tout va dans votre sens. Vous gagnez des petits matchs 1-0. Des fois, c'est au lieu d'être poteau sortant, c'est poteau rentrant. C'est l'alignement parfait des étoiles. Après, moi, je pense quand même que la problématique de Lille, le changement d'entraîneur, il est pas anodin. Galtier et Gourvenec, c'est pas pareil. Galtier, on sentait qu'il avait ce petit quand même, il réussissait à les piquer, à faire tourner l'effectif, à les faire aller au bout des matchs. Avec Gourvenec, j'ai l'impression que quand c'est à un partout, on sent bien que c'est fini.
Sauf que Florian, pourquoi Galtier est parti aussi? Parce qu'il savait qu'avec cet effectif, il était allé au bout mentalement. Galtier est un entraîneur hyper exigeant.
Dans la tête,
pour moi, ils ont un burn-out mental. Voilà, c'est fini.
C'est extrêmement difficile d'enchaîner. On l'a tous vu. Rappelez-vous la saison de Montpellier après le titre de champion de France. C'est ultra compliqué. On parle de Yilmaz, mais Yilmaz aujourd'hui il est pas armé pour faire un match le mercredi et un match le week-end à 100%. C'est impossible et ils ont pas l'effectif du PSG, donc ça va être une saison ultra délicate.
Arrêtons de fantasmer sur Yilmaz. L'année dernière il a fait 3 bons mois, mais enfin il a pas fait une année extraordinaire.
Il a fait une très belle saison.
Il a pas été tout le temps régulier, il a été aussi blessé. C'est quand même un joueur lui aussi qui a agi. On parlait de Messi, c'est plus un jeune joueur Yilmaz. Donc c'est assez logique, c'est comme ça. Moi le problème aussi que j'ai avec Lille, c'est que j'ai l'impression que cette année ils choisissent un peu plus leur match que l'année dernière. En fonction de l'affiche, ça joue. Puis quand l'affiche est moins intéressante, ça joue moins bien. Hier c'est Paris, forcément, ils font 70 minutes de très haut niveau. Après ça craque. Mais à Clermont, c'était pas la même.
Mais je suis même pas d'accord pour parler de 70 minutes de très haut niveau.
Ah, ils font 60 bonnes minutes quand même. Ils vendangent. Mais derrière, honnêtement, Paris Saint-Germain n'a pas vu le jour.
Applique la finition, ça fonctionne également. Quoi. Je veux dire, les transitions comme évoquées par Cindy, le jeu de passe effectivement en position basse, dès que tu arrivais à 25 mètres, il y avait du gâchis dans l'avant-dernière ou dans la dernière passe.
Ça ne s'appelle pas le haut niveau. Mais ça, c'est le problème quand tu comptes que sur un seul joueur comme Jonathan David. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui marque. Les autres, malheureusement, ils n'arrivent pas à concrétiser. Et c'est très inquiétant.
5 défaites en tout cas et à 16 points du Paris Saint-Germain. Déjà 5 défaites pour le champion de France anti. 19h17.
Déjà.
On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Non, on enchaîne tout de suite, mais avec les auditeurs nombreux à nous écouter et à nous écrire sur le compte @RTLFoot, cher Cindy Colmenares. Baptiste Durieux.
Exactement comme chaque samedi, avec beaucoup d'auditeurs lillois. Valentin nous dit bien sûr qu'on a le droit et le devoir de critiquer le LOSC. C'est un champion de France indigne aujourd'hui. L'effectif a finalement peu changé. L'entraîneur est ce qu'il est, mais ils ont un statut à tenir, un impératif de jeu et de résultats. Et même point de vue du côté d'Arnaud qui nous dit on leur demande pas d'être une deuxième fois champion de France, mais au moins de jouer les premiers rôles dans le top 5. Ils savent en plus comment gagner, ils ont un héritage à faire valoir. Ce n'est pas professionnel d'être 11e de Ligue 1 aujourd'hui.
On enchaîne avec la Ligue 2, Baptiste.
C'est un peu triste, cher Christian, puisque 20 minutes de jeu partout et aucun but n'a été marqué. On rappelle néanmoins que Toulouse, le leader, a fait match nul face à Guingamp, 2 buts partout. Toulouse qui conserve toujours sa première place, mais pour l'instant 0 but marqué sur l'ensemble des rencontres.
Et c'est bientôt la mi-temps à Francfort, Leipzig a ouvert le score. Leipzig mène sur la pelouse de Francfort sur le score d'un but à 0. Je vous rappelle que mercredi soir, ce sera une grande belle soirée européenne sur l'antenne de RTL pour suivre Leipzig Paris Saint-Germain. Madame, messieurs, il est australien, c'est pas une star du foot, il joue dans un club d'Adélaïde, il a 21 ans, son nom c'est Joshua Carvalho. Premier joueur en activité à révéler son homosexualité. Alors ça s'appelle un coming out, mais dit-il, je voulais juste être heureux et faire ce que j'aime. C'est ce qu'il a notamment déclaré chez nos amis du Parisien aujourd'hui en France. Question dont on fait le match ce soir. Pourquoi en 2021, ça reste un exercice aussi périlleux dans le football que de procéder, que de faire son coming out?
Parce que c'est un milieu qui est plus que traditionnel. C'est un milieu conservateur, c'est un milieu qui a des préjugés pour beaucoup. Homophobe est peut-être un peu fort, mais chez beaucoup de joueurs, dans beaucoup de clubs, l'homosexualité reste tabou, banni, moqué, vilipendé parfois, et donc les joueurs n'osent pas, tout simplement. Ils n'osent pas.
Je voudrais rappeler que ce n'est pas le seul joueur en activité. Non. Il y a eu également le joueur...
Colin Martin. On MLS, par exemple.
Oui, mais c'était une deuxième division américaine.
D'accord.
Je crois.
Ou alors
Fashion News.
Qui lui
1990. Est... Fashion News, pour les plus jeunes, on peut le rappeler. Il a joué à Norwich, à Nottingham, à Southampton. Le pauvre, 8 ans après, il s'est suicidé, victime d'une horrible campagne d'homophobie.
C'était d'ailleurs freiné Carvalho, il l'a dit. Il a rendu hommage à Fashion News en disant qu'il a, voilà, avant de faire ce coming out, il a pensé à cette histoire. Effectivement,
ça l'a encouragé. Je dirais pas freiné, je pense qu'il y a réfléchi. Parce que c'est vrai que quand...
Il a subi la haine vraiment des supporters anglais. Il a subi également les moqueries d'un certain Brian Clough, qui était un entraîneur mythique du football anglais.
Champion d'Europe.
Il a connu des problèmes d'argent. Il a vendu son coming out, entre guillemets, à un tabloïd. Et il n'a pas supporté le reste.
En fait, moi je pense que la difficulté dans ce genre de cas, c'est... D'abord les supporters, parce qu'ils vont être... Les supporters, ils se moquent de tout, donc ils prennent un peu les talons d'Achille et ils considèrent qu'être homo est les talons d'Achille de quelqu'un. Donc de fait, ils vont s'attaquer à ça. Et effectivement, il a pensé à ces joueurs qui s'est suicidé par la simple et bonne raison qu'il sait les poids qu'il va devoir porter maintenant, l'effet d'avoir fait son coming out. Mais en parallèle, il a eu les soutiens des joueurs français comme Griezmann, qui s'est vraiment beaucoup collé à cette cause, qu'il a vraiment soutenu. Il a dit d'ailleurs que si un joueur faisait les coming out, il serait là pour les soutenir et il a tenu parole puisqu'il l'a fait.
L'homophobie dans le football, ça suffit, disait Griezmann il y a quelques temps de cela.
À la une de Tétu,
effectivement.
Et moi, je me souviens d'avoir discuté une fois avec un joueur international sur ce sujet-là, sur le sujet de l'homophobie. Et il me disait en off, très concrètement, qu'aujourd'hui, c'est ce que disait Gilles tout à l'heure, les vestiaires de foot, en tant que professionnels, ne sont pas prêts. Parce que c'est des machos, parce que on va te moquer, parce que derrière les sponsors, est-ce que ça continue à suivre, etc. C'est malheureux de dire ça. Mais aujourd'hui, le constat était qu'on ne peut pas dire de façon intégrale et assumée, je suis homosexuel et je vais continuer à être joueur de football. Donc c'est important, pardon, qu'il soit précurseur, effectivement. Ouais. Il faut que ça suive derrière, mais il faut que ce soit important et que ce soit général et collectif. Parce que là, oui, tout le monde loue son geste qui devrait ne même pas en être un aujourd'hui, mais les vestiaires sont pas prêts.
Ça va être comme tout. Il va falloir qu'un joueur un peu plus emblématique et majeur fasse son coming out pour que ça puisse peut-être un peu plus avancer. Et encore, j'en suis pas sûr. Le problème, pour moi, d'abord, c'est un problème d'éducation. On sait très bien quand même que les joueurs de football, globalement, sont des jeunes qui viennent souvent de cités, qui ont une éducation, qui est ce qu'elle est, et que on sait que dans ces endroits-là, dans ces zones-là, c'est quand même, on est encore beaucoup sur l'homophobie, parce que à part aujourd'hui, dans les grandes villes où ça commence vraiment bien à évoluer, même dans les petites villes de province, être homosexuel, c'est très compliqué.
Je suis pas d'accord avec toi.
Laisse-moi finir. Et après, c'est très compliqué de faire son coming out, notamment en France, dans un pays où le président de la fédération vous dit que lui, il arrêterait des matchs pour des cris racistes, mais pas pour des chants homophobes. Quand dans ce contexte-là, vous dites que être homosexuel, c'est pas bien accueilli, vous fermez votre gueule.
C'est un tout petit peu plus compliqué que cela. C'est-à-dire que, effectivement, c'est ce qu'a dit Noël Le Graët à une époque, président de la Fédération 2019, française de football, mais c'était consécutif au. Je ne veux pas excuser du tout, mais j'essaie de comprendre. C'était consécutif au slogan lancé, notamment par les supporters, lorsqu'un gardien de but dégage un ballon. On a toujours entendu on est d'accord. Sauf que, effectivement, peut-être que Noël Le Graët aurait dû appuyer sur autre chose, c'est-à-dire les banderoles. Il y a des banderoles, des inscriptions homophobes, et ça, il ne l'a peut-être pas fait, ou il l'a en tous les cas mal fait.
Non, mais ça, c'est devenu un jeu, c'est ça les problèmes. À un moment, il s'est cherché avec des banderoles homophobes. Pour revenir sur ton sujet,
C'est pas un jeu.
Non, évidemment. Et donc, pour moi, ce n'est pas lié au milieu social, c'est ce que je voulais t'expliquer. C'est aussi la culture. Par exemple, en Amérique du Sud, c'est très difficile pour un joueur ou même pour une personne tout court de dire qu'il est homosexuel. C'est pas la France. Hein. En France, c'est un peu plus ouvert. Vous avez des quartiers où les gens se promènent main dans la main s'ils sont homo. Il y a des pays où c'est difficile et vous avez beaucoup de joueurs qui viennent de partout avec des cultures différentes, des religions différentes. Tout ça, ça rentre en jeu.
Après, l'argument économique que Baptiste citait, il est parfaitement réel et il dépasse même aussi parfois le cadre des sponsors. Le joueur qui explicite, qui fait son coming out, je suis homosexuel, il a peur de ne jamais pouvoir être transféré dans un autre club parce que le club qui voulait le recruter va penser ça va être un problème, je vais avoir un souci, et dans le vestiaire et peut-être en termes de communication et avec les supporters. Donc le football est vraiment très en retard sur la société là-dessus.
Moi,
très en retard.
Un confrère, Bruno Godard, avait écrit Sex Football Club, il avait rencontré beaucoup de joueurs, plusieurs joueurs, et sous couvert d'anonymat, tous avaient témoigné justement de ce mal-être et de cette non-possibilité en tout état de cause de pouvoir faire leur coming out en activité. Et d'ailleurs, Olivier Rouillet a fait son coming out une fois sa carrière terminée.
Beaucoup les font après, et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'ils ne peuvent pas les faire pendant qu'ils jouent. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a quand même eu un soutien au-delà du monde du football. Il y a même Ellen DeGeneres, elle, c'est une animatrice américaine très très connue, qui l'a soutenue. Elle est aussi homosexuelle, qui l'a soutenue. Donc,
c'est une chose, mais les solutions, que faire?
Alors, déjà, ce que je voulais dire, c'est que dans le foot féminin, ça va beaucoup nous aider, parce que l'essor du foot féminin, la médiatisation mondiale du foot féminin, avec comme ça des jeunes femmes qui avouent leur homosexualité.
Mais j'ai le sentiment que ça
va ouvrir.
Chez les femmes, le coming out se fait plus facilement.
C'est ça. Et ça, mais comme il se fait plus facilement, il va se faire plus facilement dans le foot, et donc ça va aider. Oui, je veux l'aider, parce que sinon,
travail,
alors là, on se dit, mais c'est pas facile. Mais je pense que ça va aider. Et c'est vrai qu'il faut absolument sensibiliser. Florian parlait d'éducation. Il faut que dans les clubs,
il y ait formation déjà.
Exactement.
Il y a vraiment Johan Lemaire, qui est un footballeur amateur, qui a fait son coming out également, se balade de club en club.
Absolument.
Club amateur, club professionnel, pour effectivement discuter et échanger avec les joueurs.
C'est ce genre de choses qu'il faut.
Oui, mais Christian, il faut que ça parte d'en haut aussi, il faut que ce soit une volonté aussi de la fédération.
Me revient l'exemple à l'instant de. C'était quel match l'Euro 2021 à Munich?
Munich où les organisateurs voulaient allumer le stade de Munich aux couleurs arc-en-ciel.
C'était en Allemagne-Hongrie, non ?
Oui, c'était avec les Hongrois.
Ça a été refusé par l'UEFA. L'exemple doit venir d'en haut, Florian Gazan.
Oui, évidemment, il faut que politiquement, il y ait un geste fort, qu'on dise, voilà, il y en a marre maintenant, et qu'on mette en place des choses, mais que ce soit validé, que c'est le tampon UEFA ou FFF. Pas que un joueur qui va se balader, c'est bien, mais c'est une goutte d'eau. Là, il faut aller au-delà de ça, quoi.
Il y a eu des clips également de tournée par notre ami Fabien Antoniente. Oui. La Fédération française a tenté de s'emparer aussi du sujet.
Oui, mais c'est pas des coups, c'est pas comme la journée de la femme, faut pas que ce soit une fois par an. Il faut que ce soit tout le temps, il faut que ce soit un travail de fond et permanent. Et voilà, et à force, ça rentrera dans les têtes. Mais si c'est ponctuel, ça sert à rien.
Alors, en cas d'injure homophobe, on arrête le match ou pas?
Je rappelle qu'un joueur qui
insulte un autre joueur est passible de 10 matchs en France, 10 matchs de suspension.
Mais ça devrait, c'est de la discrimination comme l'est le racisme.
Comme les racismes ou autre chose.
Il n'y a pas de différence, ça devrait être exactement au même niveau.
Et c'est vrai que votre question, elle est vraiment essentielle parce que, hélas, mille fois hélas, dans le foot, dans le jeu, mais ça n'excuse rien, les injures homophobes sont légion autant qu'elles étaient légion dans les stades avec les supporters. C'est-à-dire qu'entre joueurs, il y a des insultes. Moi, il y a un joueur qui m'avait dit ça, c'est que spontanément, on va s'insulter. Je répéterai pas les insultes, mais on va crier des insultes. Et donc, du coup, et mille fois hélas, hein, c'est passé presque dans le langage courant du terrain. Et ça, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Comme légalement, effectivement, c'est répréhensible. Il faut que ça le soit sur les terrains de foot. Hein.
Rien à ajouter, en espérant que ça s'améliore tout simplement.
Bravo à lui.
Surtout, soutien. Bravo à lui. Parce que ça ne va pas être évident.
Et soutien, effectivement, soutien.
Mmh. Ouais.
19h28 à la seconde près. Les messages sur le foot et sur le reste également, bien évidemment, s'il y en a. Baptiste Durieux, le compte @RTLFoot. On fait le match, vous le savez, émission 100% interactive.
Absolument, Christian. Et c'est Étienne qui nous écrit sur ce sujet. Il nous dit Griezmann, Giroud, Gérard Piqué, Lineker et tant d'autres. Ça a été retentissant, mais avec tout le respect que j'ai pour Joshua Cavallo, j'espère que certains footballeurs plus renommés dans des grands championnats européens feront de même parce que le pouvoir du foot est absolument énorme, on le réalise encore une fois.
Est-ce qu'on peut passer à la Ligue 2 s'il y a des buts?
Le but, Christian, qui est inscrit par Niort sur la pelouse du Nîmes Olympique, donc 1-0 pour les Niortais, 0-0 sur les autres pelouses. On rappelle les affiches quand même, Bastia, Amiens, Caen, Grenoble, Dijon, Paris FC, Dunkerque, Le Havre, Nancy, Sochaux, Pau, AC Ajaccio, Rodez, Quevilly, Rouen. On joue depuis une demi-heure environ. Et puis Toulouse, Guingamp, c'est fini. En 2-2, Toulouse qui est toujours leader.
C'était le match de l'après-midi. Je rappelle que cet après-midi en Espagne, le Real est allé gagner à Elche sur le score de 2-1 sans Karim Benzema.
Doublé de Vinicius.
Laissé au repos. Et qu'en Angleterre, Arsenal est allé gagner à Leicester sur le score de 2-0. Et puis concernant les adversaires de Lille et du Paris Saint-Germain la semaine prochaine en Ligue des Champions, match terminé pour le FC Séville qui a battu Osasuna sur le score de 2-0. Et à la mi-temps, c'est la pause, Leipzig mène sur la pelouse de l'Eintracht Francfort sur le score d'1-0. Publicité et la suite d'On fait le match. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour On fait le match et jusqu'à 23h pour RTL Foot. À tout de suite.
RTL, on refait le match.
Passez une bonne soirée sur RTL.
RTL, revivre ensemble. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
La suite d'On fait le match avec toujours Cindy Colmenares, la voix ensoleillée, bien sûr, d'On fait le match. Gilles Verdez, le procureur d'On fait le match. Florian Gazan, l'homme orchestre, le Rémi Bricat de RTL. Et Baptiste Després.
Bonsoir Christian.
Pour le Figaro. Deux débats, comment vous dire, comment vous présenter les choses? Alors, un débat initié par Gilles Verdez, qui veut parler du pouvoir, ou désormais des pouvoirs des entraîneurs ou du pouvoir des joueurs. C'est à choisir. Vous verrez, donc, quand on s'organise dans l'après-midi, on s'envoie des petits échanges et il tenait, Gilles, à parler de cette petite thématique. On y viendra dans un instant. Puis alors, quelque chose d'un peu lunaire, mais je profite, vous savez, quand les absents... Évidemment, quand il y a un absent, on en profite pour être pas toujours très juste. Mais là, il est là. C'est Baptiste Després pour le Figaro. Cette semaine, dans le Figaro...
Allez, bon courage, Baptiste.
Quasiment une page sur Matteo Guendouzi. Wow. Avec ce titre, est-il l'homme fort de l'Olympique de Marseille?
C'est une question.
On peut répondre.
Vous êtes sérieux?
Sur la question?
Oui.
Ah non, moi je suis pas sérieux. On n'est jamais sérieux. Non, non, mais la question, là, vous, c'est une boutade.
Non,
mais moi,
non,
je suis sérieux.
Je suis très sérieux.
Moi, je suis sérieux sur le côté où il fait partie quand même des hommes forts de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison.
Ah, bah, l'homme
oui,
fort. Là,
non, mais c'est pas pareil.
Il y a des subtilités dans la langue française, faut les
t'es
utiliser.
Mais en tout cas,
oui. Vous allez le dire
petit,
forcément.
Vous savez ce que c'est, oui. Gilles. Vous connaissez la presse écrite.
Oui.
En termes de place, etc., c'est pas forcément tous les jours facile.
Ah oui. Il peut-il prétendre au Ballon d'Or? Oui, techniquement, oui.
Mais il faut quand même saluer, pour défendre mon camarade qui a écrit l'article,
Excellent, que
Matteo Guendouzi fait partie quand même des hommes forts de cette Olympique de Marseille, qu'il est étonnant, qu'il y a encore quelques mois, on se moquait un peu de la tournure prise par sa carrière. On le rappelle, Lorient, après Arsenal, après il est prêté au Hertha Berlin, on pense très franchement qu'il est tombé dans les limbes et que c'est terminé. Non, il est rappelé par Sampaoli et forcément par Longoria, et derrière, honnêtement, c'est une des bonnes surprises de l'Olympique de Marseille, à tel point il était pas blacklisté, mais en tout cas mis à l'écart en équipe de France. Et depuis, il est rappelé en équipe de France. Non, il joue pas, mais il est rappelé.
Au-delà de ça,
convoqué. Exactement.
Au-delà de ça, moi j'ai été pire que les journalistes du Figaro parce que moi je l'ai comparé à David Luiz. Enfin, c'est dire à quel point je me suis
emporté. Ça, c'est la chevelure, ça.
Non, mais pour moi, c'est ça et aussi ses qualités des jeux. Pour moi, c'est un joueur excellent, mais pourquoi ? Pour moi, c'est plutôt l'alchimie qui a été créée entre Sampaoli, qui est un joueur qui lui ressemble énormément. Enfin, c'est l'entraîneur, mais il se ressemble au niveau du caractère avec cette fugue et tout ce qu'il apporte, et donc ça correspond très bien. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il
vient
d'aussi.
Alors c'est pas cette fugue, hein.
Fougue,
d'ailleurs, il s'échappe. Hein.
C'est pour ça, et c'est pour ça que je pense qu'il convient très bien à l'OM et que là, on le voit vraiment prendre beaucoup d'ampleur et on voit un magnifique joueur, c'est parce que les conditions sont données.
Simplement, pour être honnête, ce papier intervient au lendemain ou surlendemain du match contre le Paris Saint-Germain. Il y avait trois stats sur lesquels.
Et pas contre Nice, parce que ça n'aurait pas été la même.
C'était appuyé et les stats, c'était 70% de duels gagnés, 6 ballons récupérés, 85% de passes réussies. Donc c'est là que le Figaro s'est enflammé. Florian Gazon.
C'est un des hommes forts, évidemment. Enfin bon, c'est deux buts de passe décisive pour un milieu de terrain. Payet me semble un homme plus fort de l'OM depuis le début de saison. Moi, je pense que Guendouzi, le truc, c'est que on parlait de David Luiz. Il y a quand même aussi un côté. Il est visuellement spectaculaire et ça apporte le côté. Voilà, les cheveux au vent, il court box to box, il va haranguer la foule. Je pense que l'emballage fait beaucoup pour ce qu'on remarque de Guendouzi sur le terrain. Quand on regarde plus précisément le football. Il a fait des super matchs, il a fait des moins bons matchs, il est pas assez décisif, notamment le fameux premier match en Ligue Europa à Moscou, où franchement il y a deux trois occasions où il doit faire beaucoup mieux et ils auraient marqué le but qu'ils auraient fait gagner. Donc oui, il est plutôt surprenant, étonnamment, mais faut pas non plus le monter au sommet, quoi.
Pour le coup, en Ligue Europe, il n'a pas de statistiques significatives. Hein.
Non,
il a rien.
Non. Donc voilà, c'est moi je pense quand même qu'il y a beaucoup, voilà, le côté, le personnage.
Gilles Verdez.
Oui, puis il y a une enflammade parce que son style de jeu dont parlait Florian correspond exactement à ce que recherche le Stade Vélodrome, c'est-à-dire quelqu'un qui se bat, qui court, qui a des qualités athlétiques, qui parfois part dans des chevauchées.
Ouais, attendez, le public marseillais est suffisamment connaisseur pour ne pas se laisser abuser simplement par la coiffure de Guendouzi. Si dans Orphée le match, votre analyse consiste à dire que parce que il a une chevelure à la Jean-François Larios ou à la
Haute-Valle-de-la-Rosière.
J'essayais modestement de défendre le Figaro, quand même. Très attaqué, mais je peux aussi les pourfendre en disant qu'ils écrivent n'importe quoi et qu'évidemment l'homme
c'est
fort...
C'est vrai que vous avez une bonne balance de
non
jeu.
Non mais, on est d'accord que l'homme fort de Marseille... On est d'accord que l'homme fort de Marseille, c'est Payet.
C'est Dimitri Payet.
D'accord. Il y a un joueur à Marseille, c'est Payet. Il n'y en a pas d'autres. Mais après, c'est vrai qu'il a quelque chose qui fait qu'il déchaîne.
Il
déchaîne les passions. Non,
il y a match.
Il déchaîne les passions, Guendouzi. Il déchaîne les passions du public. Voilà.
Au niveau des passes décisives. Au niveau... Moi, en fait, je ne l'analyse pas par rapport à ses cheveux, mais par rapport à son mental, son caractère. Ce qui m'inquiète de lui, en revanche, c'est que son caractère, on l'a vu quand il était à Arsenal, il s'est mettait à genoux, il exclamait. Enfin, c'est un joueur qui en fait trop quand ses coéquipiers.
C'est pas de Arsenal, on parle de Marseille. Là, il n'en fait pas trop, en revanche, là.
Ah, bah si. Aussi, apparemment, j'ai entendu dire à l'entraînement,
non,
il paraît que.
Le terrain.
Mais à l'entraînement, c'est important.
Matchs.
Mais s'il s'est mis les vestiaires à dos.
Non, mais Cindy, la tête a un peu dégonflée.
Non, il était
infernal à Arsenal.
Exactement.
Son entraîneur voulait plus.
Et même en équipe de France, c'est mal passé au début.
Non,
de
c'est
France.
Un joueur.
La tête a dégonflé quand même.
C'est un joueur. moi je le trouve génial à l'OM et je pense qu'il a les caractères qu'il faut pour cette équipe. Mais là, ce qui m'inquiète, c'est qu'au vestiaire, il
quand
crée
c'est Cindy
déjà
qui dit,
des
vous
difficultés.
Vous lui dites pas qu'elle raconte n'importe quoi, voilà.
Parce que je raconte pas n'importe quoi.
C'est autre chose. Elle dit comme moi et elle a le droit.
Non, mais moi, je suis pas dans des thèses complotistes. Moi, j'ai dit un truc que vraiment j'ai entendu. Au niveau du vestiaire, il y a des joueurs qui sont pas forcément très à l'aise avec un coéquipier qui, de temps en temps, a tendance à dire pourquoi tu fais ci, tu fais ça. Il les met un peu en question. Alors qu'il est là plutôt pour s'intégrer. N'en demeure pas moi, je pense que ça peut devenir vraiment une tête importante à l'OM parce qu'il est bon, parce qu'il apporte vraiment à l'équipe, je ne le dis pas à Paulo Pass, mais aussi parce qu'à l'animation, dans l'entrejeu, vraiment, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs
génie,
postes.
Non,
moi, je le trouve génial.
Je ne peux pas, interrompre Cindy Colmenares qui me parle de psychologie, ça c'est très intéressant, et qui me parle de jeu. Vous me parlez de la chevelure de Guendouzi.
Christian, je m'inscris en faux. Là, vous êtes très réducteur, je vous parle.
Vous avez attaqué là-dessus quand même, Florian.
Mais je pense sérieusement que si Guendouzi il avait les cheveux courts, tu le remarquerais moins. Ça joue quand même,
quand même. Mais si, il a de l'allure, il dégage un truc.
Mais Christian était avec ses deux trucs, ses deux chignons au-dessus du cou.
C'est Maradona et sa petite taille qui court. C'est comme ça.
C'est lui. Guendouzi, c'est le patron.
Non, honnêtement.
Payet, oui.
Mais non, mais.
Bah oui, c'est ce qu'on disait.
Je reviens sur Guendouzi parce que vous êtes resté aux cheveux, j'ai dit truc après, mais apparemment vous avez décroché. Guendouzi, là où il colle bien avec Marseille, c'est effectivement ce côté généreux, box to box, je traverse. Dès qu'il y a une embrouille, je suis le premier à aller défendre mon collègue. Voilà, il est très dans l'esprit Marseille. Mais de là à dire que c'est l'homme fort de Marseille, après moi je reviens sur le plan, encore une fois, purement football, c'est quand même pour l'instant irrégulier, c'est intéressant, mais c'est quand même pas Gégen. Faut arrêter.
Tu t'es pas sur Nice pour dire ça, parce que face à Nice, c'était pas top.
Ça arrive, t'as des trous dans une saison, t'as des trous, mais ce que je veux dire, c'est que sur une saison complète en termes de régularité, effectivement, faut qu'il apporte des réponses, mais on peut faire la comparaison après avoir, parce qu'il a pas sa carrière, on en est tous d'accord, mais ça peut être un peu le Blaise Matuidi de l'Olympique de Marseille. Il faut voir sur la durée, il faut voir comment ça se passe, mais en termes, tu le disais Florian, en termes de générosité, de fougue, etc., il a quand même des qualités qui peuvent être un peu similaires. Après, on le sait tous, il peut aussi se perdre, mais là je trouve que sur les 3-4 premiers mois, c'est quand même vachement intéressant.
Je le trouve très déterminé, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En fait, il a aussi la détermination en équipe de France, il a des ambitions à ces niveaux. Donc moi je pense qu'il est en train de tout donner, il sait très bien que Didier Deschamps a les yeux sur lui, il est en train de tout donner pour vraiment enfin pouvoir jouer, parce qu'il est sélectionné,
Mais moi je parle de l'équipe de France. Il a le niveau équipe de France, Guendouzi.
Bah oui, il l'aura.
Pour être dans le groupe, c'est vrai qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, il n'est pas invité par rapport à certains joueurs. Par rapport à Kanté et Pogba, il n'est pas invité.
Incomparable.
Mais en revanche, être convoqué dans le groupe, ce qu'il fait depuis quelques semaines, pourquoi pas rentrer dans la rotation.
Marseille, ça, question supplémentaire. Le rythme de Marseille, Marseille qui joue à Clermont, ce sera
dimanche soir.
Ouais. Bon.
Et qui rejouera en Europa League.
Moi, je suis pas emballé, c'est sérieux. Je crie pas au miracle et j'attends de voir Sampaoli dans la durée, parce que le Sampaoli time des dernières minutes, c'est un peu derrière nous. Il essaye de construire. Moi, dès le début de saison, j'ai dit que j'étais très sceptique sur le recrutement. Je vais pas changer d'avis. Pour moi, c'est pas une énorme équipe, Marseille.
Mais c'est les meilleurs recrutements de l'OM depuis un certain temps.
Moi, je reste sceptique.
Non, pas simple. Oui, aussi, mais je parle des joueurs. Ils sont fait. Tu parles de qui? Des recrutements des Sampaoli ou des joueurs?
Non, de tous les joueurs. Le recrutement de tous les joueurs.
Mais non, mais Longoria, il a fait.
Recrutement global de Longoria, en qui je ne crois pas vraiment. Voilà. Pour moi, Longoria, c'est petit, tout petit.
Ah non, moi je pense que c'est vraiment un président qui connaît le football et qui a apporté à l'OM ce qu'il fallait.
Je pense que Longoria apporte surtout à lui-même.
Après, pour quelqu'un qui est ambitieux, effectivement, on les voit un peu comme opportunistes.
Je trouve que Longoria est un président qui pense à lui et pas à Marseille. Et que son recrutement ne m'a jamais beaucoup inspiré. Donc je ne vais pas changer maintenant. Je suis cohérent avec moi-même, je vous dis ça en début de saison. Je ne vais pas changer maintenant.
Marseille, 4e, 19 points.
Voilà.
Bon, c'est pas...
Ah bah c'est plutôt pas mal.
C'est pas une infamie quand même.
Non, mais il faudrait quand même finir sur le podium. Ce serait quand même bien pour Marseille.
Mais ils sont capables, là, moi,
attendez,
je pense.
Attendez quoi?
On prend un premier tiers de championnat.
Ah non, mais on dit pas qu'ils le font pas, Christian, mais on sent quand même que, voilà, on va avoir cette problématique d'un entraîneur très exigeant qui demande beaucoup aux joueurs, un peu fantasque au niveau de l'organisation, qui laisse beaucoup
de jus. C'est plus ça, d'ailleurs, parce que quand on dit il demande beaucoup aux joueurs, il fait tourner, hein. Il fait beaucoup tourner. Il ne présente jamais la même équipe un week-end sur l'autre.
Ce qui est aussi un problème.
En revanche, le jeu déconstruit, En permanence, ça oui, ça peut poser un problème.
Mais et là, pour le sauf coup, si les joueurs sont à l'aise et plusieurs joueurs ont déjà parlé. Non, mais plusieurs joueurs disent, justement, Guendouzi, on en parle, Guendouzi. Bah, lui, il disait que justement, c'est ce qui lui plaît parce qu'il aimait dans plusieurs positions, plusieurs rôles. Il s'est sent à l'aise. Non, mais il parle la même langue, quelque part. Ils s'entendent. Donc,
mais vous vous satisfaisez de Marseille 4e ? Marseille à 2 points de Lens, pour vous c'est bien.
Honnêtement, moi, depuis le début de saison, c'est quand même assez réjouissant ce qu'on voit.
Si pour vous Marseille est un bon 4e, pour moi jamais. Marseille c'est 2e ou rien.
On est un tiers de la saison.
À ce moment-là, on fait le bilan à la fin.
On parlait d'homme fort, moi, juste un mot sur Saliba qui fait quand même un début de saison absolument incroyable. Et comment ce joueur ils l'ont pas gardé à Arsenal ? Ça c'est un mystère.
Alors, où est-ce que j'ai vu cela cet après-midi, Saliba, qui est convoité par tous les grands clubs.
De toute façon, il appartient à Arsenal.
Je ne sais plus sur quel site très sérieux j'ai vu cela, mais on commence déjà à parler de... est-ce qu'il serait prêté à Arsenal ? Il pourrait partir au Mercato d'hiver, par exemple ?
Ah non, il est prêté pour une saison, là, avec l'Olympique de Marseille, mais c'est pour le mois de juin prochain.
Bon. Un petit thème entraîneur, madame, messieurs. Si on fait le match à 19h43, on a beaucoup parlé du PSG, de Pochettino. On peut parler de Koeman, quand même, viré de Barcelone cette semaine. Et Pep Guardiola, qui connaît bien la maison.
Et Xavi, il connaît bien Xavi.
Alors voilà, c'est Xavi qui va sans doute prendre les rênes de l'équipe, il connaît bien. Enfin, il connaît bien. Il va découvrir aussi quand même un nouvel environnement pour le coup.
Le Chandruin par exemple.
Non, mais oui.
Il va chercher Messi.
Il va plus reconnaître les joueurs, il va plus reconnaître l'équipe.
Voilà.
Aujourd'hui, Barcelone, c'est quand même une coquille vide.
Ça fait 5 saisons que Xavi est parti au Moyen-Orient. Donc il va falloir quand même qu'il se remette dans le bain. Il va découvrir beaucoup de choses, donc grande prudence. Mais c'est le débat qui avait été proposé, je parlais des coulisses d'enfants. Fait le match tout à l'heure avec Gilles Verdez sur la petite phrase lâchée par Guardiola. Le problème, ce ne sont pas les entraîneurs, ce sont les joueurs.
Oui, parce que pour moi, Guardiola, c'est un mythe. Et avant le match de championnat, là, il a dit que. On était interrogé sur l'arrivée potentielle de Xavi à Barcelone. Il dit c'est bien, Xavi, moi ici, c'est bien, d'autres savent faire. Mais aujourd'hui, l'entraîneur, c'est plus la question. La seule question, c'est les joueurs dont on dispose. Et moi, j'ai été interpellé parce que pour moi, Guardiola, c'est le dernier génie tactique, c'est le dernier qui a apporté dans le foot. Aujourd'hui, il y a un peu le contre-pressing ou le retour à 3 défenseurs centraux, mais ça, c'est du blabla. Mais il y a pour moi, le génie, c'est Guardiola. Et pour que lui dise finalement, je suis pas important, sa vie n'est pas important, seuls les joueurs sont importants, je trouve que c'est l'aboutissement ultime de la révolution du foot. Il n'y a plus que des stars.
On revient sur une thématique qu'on a vraiment posée 1000 fois dans On fait le match, c'est la République des joueurs.
Enfin, Guardiola, là où il est un peu contradictoire, c'est qu'il dit l'entraîneur sert à rien, c'est les joueurs. Mais enfin, là, à City, c'est lui qui les choisit, les joueurs. Donc, quand même, il y a le rôle de l'entraîneur.
Alors, c'est lui qui a façonné cette équipe, quand même.
Mais justement, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que c'est plus l'entraîneur qui est tacticien, c'est plus l'entraîneur du système de jeu. L'entraîneur est un super manager qui va convaincre son actionnaire, parce qu'il est célèbre et parce qu'il a tout gagné, comme sans doute Guardiola, d'acheter des joueurs incroyables. Mais aujourd'hui, le rôle sur le terrain technique de l'entraîneur, d'après Guardiola, n'existe plus. Je suis assez d'accord avec lui.
Mais je suis pas d'accord avec toi. On parlait du match hier soir PSG-Lille. Justement, pour moi, c'est un exemple d'un match qui prouve que le match, il appartient à l'entraîneur et aux joueurs. Il appartient à l'entraîneur parce que effectivement, Pochettino fait ce changement de système dont on a parlé tout à l'heure, et Paris joue mieux. Et il appartient aux joueurs parce que Neymar et Di Maria aussi se mettent une pile et décident finalement d'être décisifs. L'un dans l'autre, c'est la somme des deux qui fait que Paris gagne le match hier soir.
Non, mais l'entraîneur, il va juste. Ok, c'est l'entraîneur qui décide du 11 de départ. Mais
la tactique, ça compte quand même, les changements, les coachings.
Moi, j'y crois pas du tout.
La petite phrase de Thomas Tuchel qui disait au PSG, je suis autant entraîneur que ministre des Sports et je dois faire de la politique.
C'est ça, c'est des politiciens.
Lui, c'est encore à double niveau parce que je pense que Guardiola fait à peu près ce qu'il veut par rapport à ses dirigeants pour mettre son 11 en place. Qu'ensuite, il doit faire attention et faire preuve de beaucoup de précautions par rapport aux joueurs qui sont des stars. Mais là, pour le coup, l'exemple de Tuchel, c'est à double détente. C'est je gère les joueurs, mais je gère également mes dirigeants. Je fais de la politique.
Parce qu'il était dans un club où les stars étaient plus fortes que l'institution. Alors qu'à Manchester City, vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est Manchester City qui est au-dessus, Guardiola qui est juste en dessous, et les joueurs sont au piquet. Pareil, quand on voit le Real Madrid ou Barcelone, il n'y a pas un joueur qui va faire sa star à Madrid ou Barcelone.
Bayern, qui est un super exemple aussi de ces choses-là, de ces choses-là. Là, qui a toujours. Je pense qu'il y a des clubs où malheureusement. Comment ?
Il y a eu le FC Hollywood à une époque, le Bayern.
Mais alors, vous qui êtes vraiment un supporter de la concordance des temps, Baptiste Després, vous m'avez dit, à une époque, donc, les joueurs étaient supérieurs à l'institution, en parlant du Paris Saint-Germain. Ce n'est plus le cas maintenant ?
Sans super. Bon, en tout cas, ils travaillent pour.
D'accord.
Ils travaillent pour. On le voit hier dans la déclaration de Leonardo. Il fait le pompier de service aussi, notamment par rapport au fait qu'on avait raconté tout à l'heure sur Herrera, sur Icardi, en disant les joueurs, on les surveille. Croyez pas qu'on ne voit pas venir telle ou telle chose, même si lui n'est pas très fan des réseaux sociaux. Donc, ils font attention à ça, parce qu'ils savent qu'il y a quand même eu des frasques. Et il y a des frasques au Paris Saint-Germain, Gilles l'a dit tout à l'heure. Mais oui, aujourd'hui, Paris n'est pas du niveau du Real Madrid, de Barcelone ou Bayern Munich en termes d'institution. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps là, depuis l'arrivée du Qatar, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Ouais.
Les joueurs, pour moi, les entraîneurs, c'est des super managers voilà, aujourd'hui. Et c'est qui je vais faire venir, qui je vais virer, parce qu'il y a des choix draconiens. Mais c'est vrai qu'en termes tactiques, les entraîneurs, ils sont complètement dépendants des joueurs, totalement dépendants des joueurs.
Et des dirigeants, parce que les PSG, on les cite aujourd'hui comme exemple, mais il ne faut pas oublier que Pochettino, c'est aussi les Qatar. Et donc, c'est pour ça que ça vous donne l'impression que Pochettino, il est archi respecté par Leonardo, on les défend, etc. Mais c'est qu'il y a ça aussi qui rentre
avec en compte. L'expérience des entraîneurs qui sont passés au Paris Saint-Germain, avec tout ce qui s'est dit, est-ce que Pochettino ne pense finalement, alors là, c'est une question très provocatrice, me retrouver avec des tonnes d'insultes sur les réseaux sociaux, notamment pour ceux qui sont pro Pochettino. Est-ce que finalement, lui, c'est son plan de carrière, point, il ne peut pas se fâcher. Il n'a aucune raison de se fâcher, finalement, avec les dirigeants du Qatar et avec les joueurs. Plan de carrière, je ne me fâche pas. Non. Messi, on reprend l'exemple de Messi, il n'avait aucune raison de l'aligner. Pourquoi a-t-il aligné Messi pour prendre un risque en vue de la Leipzig, d'ailleurs, mercredi prochain ?
Si vous n'êtes pas un entraîneur politique au PSG, vous dégagez tout de suite, hein ? Il n'y a que des entraîneurs politiques qui peuvent réussir au PSG, avec tous les cercles. Par exemple, on a beaucoup dit que Laurent Blanc n'était pas assez politique.
Tourelle
n'était pas un politique. Il est arrivé avec ses certitudes dans le jeu, son staff, et il ne voulait pas s'intégrer à tout ce qu'il y avait autour. Ancelotti était éminemment politique,
bien sûr,
mais lui, à un moment, ça a dépassé l'acceptable. Et donc, il est parti directement.
Et donc,
mais,
le plan de carrière de Pochettino, avec tout le respect qu'on lui doit
bien
pour son immense carrière, c'est effectivement de ne pas faire de vagues. Et on rappelle que le PSG est largement en tête du championnat et que le PSG est en tête de son groupe Ligue des Champions également.
Mais c'est inquiétant. Ouais. C'est inquiétant parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Ils sont en tête, mais en gagnant toujours à la dernière minute. Donc moi, à la place de ceux qui sont plus bas, je me dis qu'il y a des chances.
Justement, puisqu'on critique tout le temps le Paris Saint-Germain, soyons positifs sur Paris. Il y a quand même cette année 4 victoires après avoir été mené, ce qui veut dire quand même quelque chose.
Ouais. Mais ils ont une chance de caractère.
On peut les voir dans les deux sens.
On a commencé par le PSG, on va presque terminer par le PSG. Et après, les gens nous disent, vous parlez trop du Paris Saint-Germain. Mais là, c'était un bon débat sur le pouvoir des entraîneurs par rapport aux joueurs stars des grands clubs européens. 19h et bientôt 50 minutes, Cindy Colmenares, Gilles Verdez, Florian Gazan et Baptiste Després, et bientôt les tirs au but. Ah. Alors, le classement, je rappelle le classement, c'est sans fourche qui est en tête. j'ai donné le nombre de points en ouverture, 7 points, Verdez 5 points et Tarago 4 points. L'occasion est belle pour Gilles Verdez de revenir. Je rappelle le principe pour tous ceux qui nous rejoindraient, car ils sont de plus en plus nombreux. Chaque samedi, entre 18h30 et 20h, vous écoutez les questions qu'on propose aux chroniqueurs, aux auditeurs, aux débatteurs de On fait le match, le coup de sifflet et tout le monde...
Et pas avant les coups de sifflet.
Et pas avant le coup de sifflet et surtout, réponse pertinente et on marque un point et on fait le classement à la fin de la saison. La publicité dans l'immédiat, tout de suite.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
Les 7 dernières minutes d'On refait le match. Les tirs au but, les questions d'actualité qui n'ont pas été évoquées dans les débats depuis 18h30. Le coup de sifflet, la réponse et un point pour celui qui est le plus prompt et pertinent à répondre. Tiens, Monaco-Lyon ne sera pas délocalisé en Chine. Raison invoquée, contrainte sanitaire. Regret, selon vous, de ne pas promouvoir le football français à l'étranger ? Oui ou non ?
Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, parce que très sincèrement, les raisons invoquées. Effectivement, on va dire conditions sanitaires, mais c'est surtout qu'ils ont vu, ils ont fait bruiter un petit peu ce sujet-là, et derrière, ils ont vu le tollé qui se sont pris en pleine figure, la Ligue. Honnêtement, faire jouer Monaco-Lyon en Chine, à ce moment-là de l'année, alors qu'on parle de conditions carbone et compagnie, l'écologie, mais qu'est-ce que tu vas faire jouer un match comme ça en Chine?
Oh, c'est pas le bon débat, ça.
Non, mais honnêtement, il y a aucun intérêt. Est-ce que ça va promouvoir?
Je me suis fâché avec Tarago la semaine dernière, qui me parlait également de l'empreinte carbone.
Mais ça fait partie des sujets aujourd'hui.
C'est pas un avion qui,
bah oui, alors c'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1. Non, mais il n'y a pas que ça. Mais très sincèrement, il n'y a aucun intérêt. Aucun intérêt. On l'a vu aujourd'hui, faire jouer les matchs à 12 ou 13 heures. Est-ce qu'il y a eu un essor du football français en Chine parce que les matchs de 12 ou 13 heures sont alignés le dimanche? Honnêtement, pas du tout. Donc c'est pas ça qui va faire que.
Moi, je n'ai pas d'intérêt. Et en plus, l'histoire qui nous sort sur les sanitaires, en fait, s'ils avaient vraiment voulu les faire et qu'ils n'avaient pas eu peur de la façon dont ils se sont pris les critiques, ils l'auraient quand même fait. Donc voilà.
Non, mais il n'y a aucun intérêt. Quel intérêt d'aller en Chine où ils connaissent à peine Monaco, ils connaissent à peine Lyon, dans un, à quoi ça va faire venir 20 000 personnes?
C'est vendre
ça
qui... le football français.
Mais vous allez le vendre à 20 000 personnes qui iront au stade, voilà.
Mais tu as un actionnariat chinois à Lyon, tu as également quelques billes chinoises à Monaco.
Oui, mais là, ils font des tournées promotionnelles l'été, c'est fait pour ça, mais pas un match de Ligue 1.
Surtout en plein Jeux Olympiques d'hiver.
Puis les Chinois, ils ont autre chose à faire en ce moment avec la nouvelle crise sanitaire que de gérer un match de Ligue 1 dont ils se foutent complètement, voilà, Christian. Bah,
accessoirement, ils ont les Jeux Olympiques d'hiver à organiser également.
Bah, justement, ils ont autre chose à faire que notre Ligue 1, je pense.
Bon, un point pour Baptiste Després.
Qui remonte fort. Hein.
Combien, j'avais un point, moi.
Oui, mais bon,
bah, en une fois.
Je ne parle que du podium.
L'émission des puissants.
Vous vous souvenez du mystérieux intrus du Vélodrome lors du match Marseille-Paris-Saint-Germain? Pas d'adresse, pas d'identité, d'origine étrangère, on ne sait pas. Il a décliné à deux reprises une identité différente. Parle pas français. Simple résultat, c'est un rappel à la loi. Un rappel à la loi. Faut-il en rire ou en pleurer?
Rire, c'est un scandale. C'est un scandale. Non, il faut en pleurer parce que moi, déjà, je pense que la sanction, et c'est pour ça justement que l'État français est en train de revoir ce type de sanction, elle est passée à des avertissements pénals, ils sont plus, enfin, sont plus efficaces.
Avec
c'est
qui,
plus
il n'a pas d'identité, il n'a pas d'adresse, il n'a rien.
Mais non, mais la question qu'on doit se poser, c'est comment il a pu rentrer au stade, qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, normalement, il y a quand même une sécurité.
C'est pas ma question.
Mais moi, ma question, et vraiment, je pense que c'est important, c'est les jours où un supporter ou quelqu'un va agresser un joueur, mortellement ou pas, qu'est-ce qui va se passer, en fait?
Très respectueusement, sur cette affaire-là, vous faites fausse route.
C'est
parce qu'il y a eu des sanctions exemplaires. Il y a eu 14 procédures de plaider coupable, il y a eu des sanctions qui vont jusqu'à 6 mois ferme, 21 personnes interpellées.
Pas six mois ferme.
Si, il y a c'est juste en marge. Il y a eu un 6 mois ferme, oui, légèrement en marge.
Mais assorti du bracelet électronique.
Bah, toujours 6 mois ferme, c'est des peines qui sont assorties de bracelet, qui sont aménageables.
Donc il n'y aura pas de prison.
Donc, non. Bah, j'ai jamais dit qu'il y aurait de la prison. Non. Condamnation à 6 mois ferme en France. Vous avez un bracelet.
Je parle d'un type qui s'approche de Messi.
C'est sans doute un mineur venu d'Algérie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le mettre en prison?
Mais non, mais je veux dire, c'est l'absurdité.
Sur ce match-là, la justice
a été. Rappel à la loi, un type qui est reparti dans la nature.
La justice a été exemplaire sur ce match-là. Donc je trouve que vous la critiquez sur ce match à mauvais escient. Les sanctions étaient très fermes. Il y a eu des interdictions de stade d'un an. Donc je dis bravo à la justice.
Rappel à la loi pour un type qui est reparti dans la nature.
Oui, mais s'il n'est pas justiciable, c'est
qu'est-ce que vous voulez en faire si c'est un mineur? Et heureusement, il y avait une. Non, franchement, là, je vous trouve très dur avec la justice.
Par contre, il faut faire comme clairement aussi que les clubs aussi soient un peu mis devant leur responsabilité. C'est pas normal que ça puisse arriver aujourd'hui qu'un mec, il a traversé tout le terrain pour aller voir Messi. Limite, il est encouragé. Ça, c'est pas. Parce que le jour, effectivement, où on aura une Monica Seles ou un mec qui va venir et qui va poignarder un joueur, là, on rigolera moins.
Dans une interview à un journal anglais, Lilian Thuram estime que les joueurs blancs doivent les premiers refuser de jouer lors d'invectives à caractère raciste. N'est-ce pas une stigmatisation dans la stigmatisation?
Non.
Non.
Éliminer.
Non.
Éliminer Cindy, c'était avant le coup de sifflet, Gilles Verdez.
Non, je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit parce que, bon, il le dit parfois avec un langage un peu provocateur, mais il faut une sensibilisation de tout le monde. Et on a un peu l'impression quand même que seuls les joueurs noirs ou les joueurs concernés sont très préoccupés par le racisme. Et là, je trouve que ce qu'il dit est intéressant. S'il y a un retrait commun immédiat de l'ensemble des deux équipes, comme à un moment le PSG, par exemple, sur un match l'avait quasiment fait. Là, je trouverais ça formidable. Donc, je ne dis pas qu'il attend.
Allez, un dernier tir au but. C'est officiel. Vous le savez, le passage de 3 à 5 remplaçants sera maintenu définitivement. C'est une décision qui avait été prise pour aider les équipes, les clubs à affronter des calendriers difficiles, à cause notamment, pas seulement du Covid. Alors, après l'arbitrage vidéo, après les hors-jeux électroniques, vous savez, c'est à venir, ça. Hein, c'est une idée d'Arsène Wenger. Bientôt, il y aura des matchs en carton. Ça, je vais énormément cliquer. Les mi-temps, on a parlé des mi-temps à 25 minutes. Comme le Super Bowl. Ouais. Pour ou contre le football popcorn?
Contre ?
Jean Le Gazon.
Bah, contre, évidemment, parce qu'il y a un moment donné, l'évolution, c'est bien, mais la révolution, ça mène souvent nulle part. Le football, il est ainsi fait depuis des siècles et des siècles. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'on fasse des évolutions à la marge, il ne faut pas être passéiste complet, faire c'était mieux avant. Moi, je trouve les cinq changements par rapport aujourd'hui à la réalité du football moderne, où on fait jouer de plus en plus de matchs, c'est une très bonne chose. Ça permet d'avoir des matchs de qualité jusqu'au bout de 90 minutes. Mais les mi-temps, etc., il faut arrêter. Quoi. Puis Arsène Wenger, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut qu'il parte en club de vacances, en fait.
Ah, ça vous terminez mal. Sur l'ensemble, j'étais d'accord avec Florian. Il n'y a pas de débat, je suis d'accord avec Florian, mais là, pas de.
Non, mais il y a trop, il y a trop.
Pas de procès d'intention. Du respect de la guerre.
Ah, je respecte, mais je respecte
souviens
pas.
Souviens-toi des Leonardo. Hein,
égalité parfaite. Un point pour M. Després, un point pour M. Berlez, un point pour M. Gazan et un point pour Mademoiselle Colmenares. Et je fais les classements, je mettrai ça à jour lundi à la première heure. Bien, François, le 1er novembre. Là, on travaille également le 1er novembre.
Bravo à la première heure, on avait compris.
Merci Gilles Verdez, merci Cindy Colmenares, merci Florian Gazan, merci Baptiste Levé, merci à Lucas à la réalisation. Merci surtout à vous tous pour votre fidélité. Après les informations de 20h, toute l'équipe d'RTL Foot. Très bonne nuit, très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao, ciao.
RTL, on refait le